Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. À la une de l'actualité ce soir, bientôt un nouveau propriétaire pour l'Olympique de Marseille. L'ancien président du club de rugby du RC Toulon, Mourad Boudjelal, affirme que des investisseurs veulent racheter l'OM pour 700 millions d'euros. Et c'est dans votre journal qu'on en parle. Lionel Gougelot, bonsoir Lionel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, ils risquent leur vie toute l'année pour nous, les sauveteurs bénévoles de la SNSM. Plus de 37 000 personnes secourues l'an dernier. La SNSM qui appelle aux dons ce week-end, particulièrement mon invité dans 20 minutes, Marc Sauvagnac, qui en est son directeur général. 18h30, les grandes voix avec ce soir Michel Cotta, Emmanuel Duteil et Frédéric Dabi de l'IFOP. Au programme, bien sûr, eh bien, ce second tour des municipales et ses enjeux avec une édition spéciale dimanche sur Europe 1. Et puis 19h20, cette semaine d'élections qui s'achève. Alors ce soir, on conclut avec le Rassemblement National. Nicolas Bay, député européen du Parti Frontiste, et de mon invité dans ce studio. À 19h30, ça y est, comme chaque vendredi, votre grand journal du soir passe en mode week-end. Nos idées, nos balades déconfinées, des sorties culturelles, des bonnes recettes. C'est avec la rédaction d'Europe 1. Et vous tous, vous faites quoi ce week-end? On attend vos témoignages au 3921, hashtag Europe 1. Vous avez le programme en main. On est ensemble jusqu'à 20h pour écouter ensemble le monde changer.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La volonté de faire de Marseille la capitale française de la Méditerranée. On est quand même conscient du monument et on est conscient des moyens qu'il faut pour être à la hauteur du monument.
Un projet hors norme pour l'Olympique de Marseille. Mourad Boudjelal en mission pour le rachat de l'OM avec les millions d'un groupe d'investisseurs du Moyen-Orient.
Une attaque au couteau dans les rues de Glasgow en Écosse aujourd'hui, même bilan provisoire, 6 blessés.
Il y avait des sirènes et beaucoup de cris. En fait, c'était la police qui faisait évacuer l'hôtel, mais aussi les bus et voitures alentour.
L'agresseur a été neutralisé. Les premières infos de notre correspondante sur place dans un instant.
Dans ce journal également, un dépistage systématique et massif au coronavirus en région parisienne.
C'est une bonne chose qu'on passe à la vitesse supérieure. Plus on teste, plus on trouve et plus on peut réagir derrière.
1 300 000 habitants de Seine-Saint-Denis et de l'Essonne seront testés pour repérer d'éventuels foyers de contamination.
Dans ce journal également, la fin de la campagne des municipales qui a par endroits dérapé sur les réseaux sociaux.
La technique de la clé d'étranglement à nouveau sur la sellette. Une policière porte plainte contre l'un de ses collègues.
Et le bilan de la première semaine de réouverture des cinémas, bah, plutôt mitigé. Hein.
La Bourse de Paris finit la semaine en légère baisse de 0,18% à 4909 points.
Et Anissa est avec nous. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le temps demain et ce week-end.
Alors d'abord cette nuit avec 20 départements placés en vigilance orange aux orages. La nuit s'annonce donc très agitée sur une grande partie du pays avec une forte activité électrique, des orages parfois même violents. Demain, ça sera encore très agité dans le ciel. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Et à la une ce soir, les fans de l'OM connaissent bien, très bien même, cette musique des soirs de match.
Oui, la fameuse musique de Van Halen. Hein.
Bah voilà, des supporters qui vont peut-être voir leur club de cœur entrer dans une nouvelle dimension, Lionel.
Des investisseurs du Moyen-Orient seraient prêts à racheter le club. Un projet à la tête duquel on trouve Mourad Boudjelal, l'ancien patron du rugby club de Toulon. Et on évoque un investissement astronomique. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Des chiffres qui vont véritablement donner le tournis sur la Canebière. On parle de 700 millions d'euros, c'est bien ça ?
C'est ça, l'OM, c'est ce soir la marque qui vaut peut-être 700 millions. 300 pour racheter le club au propriétaire américain Frank McCourt, c'est énorme. 200 pour éponger les dettes, qui sont en réalité moins importantes. Et 200 pour le mercato et les futurs transferts, c'est beaucoup en ces temps de crise post-Covid. Les investisseurs viendraient majoritairement d'Arabie Saoudite, autour d'un influent homme d'affaires franco-tunisien, installé sur place depuis des décennies et dont les réseaux s'étendent jusqu'à la classe politique française. Pour incarner ce projet vertigineux, vous l'avez dit, un Provençal, l'ancien patron à succès du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, nous l'avons joint cet après-midi, après de longues heures de discussion dans un palace parisien avec les principaux protagonistes, il nous confirme la réalité et l'ambition de cette offre de rachat de l'Olympique de Marseille.
Il y a des fonds privés, il y a des fonds étatiques, on est quand même conscient du monument, et on est conscient des moyens qu'il faut pour être à la hauteur du monument. Ce projet a une connotation très forte méditerranéenne, c'est la volonté de faire de Marseille la capitale française de la Méditerranée. C'est un bassin de population de plus de 500 millions de personnes. Je pense que je peux porter ce projet. C'est excitant, mais ça fait peur. Mais pour l'instant, l'étape 1, c'est McCourt qui a la réponse.
Et justement, à l'OM, pour l'instant, eh bien, c'est silence radio. Personne ne souhaite réagir. Pendant ce temps, les banquiers d'affaires et les avocats peaufinent cette offre de rachat qui sera présentée la semaine prochaine à Frank McCourt. Rien n'oblige l'Américain à vendre l'OM, mais si les sommes évoquées sont les bonnes, il aura bien du mal à la refuser. Lui, qui a engagé son club sur le chemin de l'austérité et des économies, pas vraiment ce que veulent entendre les supporters à quelques semaines du grand retour de l'OM en Ligue des Champions.
Difficile, effectivement, de résister à tous ces millions d'euros. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.
L'actualité, c'est Glasgow en Écosse ce vendredi, théâtre d'une attaque au couteau. Il y a quelques heures à peine, un homme s'en est pris à des passants dans la rue. Bilan 6 blessés, encore provisoire ce bilan. L'assaillant, lui, a été tué par la police.
Oui, alors on va rejoindre tout de suite notre correspondante au Royaume-Uni, Élodie Goulesque. Élodie, quelles sont les premières informations dont vous disposez, et est-ce qu'on connaît déjà les motivations de l'agresseur ?
Alors pour l'instant, pas d'informations sur les motifs de l'attaque, mais ce que l'on sait, c'est que la police de Glasgow est intervenue aux alentours de 14h en plein cœur de la ville sur West George Street. Le lieu précis de l'attaque, lui, reste confus pour l'instant. Certains médias britanniques parlent d'un hôtel, le Park Inn, où l'assaillant aurait frappé, mais d'autres disent que l'attaque aurait eu lieu dans un bâtiment juste à côté. Stewart vit dans la rue où a eu lieu l'incident et témoigne sur la chaîne de télévision Sky News.
Il y avait des sirènes et beaucoup de cris. En fait, c'était la police qui faisait évacuer l'hôtel, mais aussi les bus et voitures alentours. Après une demi-heure, ils sont ressortis de l'hôtel avec un individu en civil. Et un second est sorti également.
L'incident a provoqué de nombreuses réactions. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié l'attaque d'épouvantable sur Twitter. Le premier ministre britannique Boris Johnson, lui, s'est dit attristé et apporte son soutien aux familles des victimes. C'est le deuxième incident de ce genre en moins d'une semaine au Royaume-Uni. L'attaque de Reading samedi dernier avait fait 3 morts.
Et Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Bientôt un dépistage massif et systématique dans une trentaine de communes de la région parisienne. Cela devrait concerner donc 1 300 000 habitants.
30 communes en Seine-Saint-Denis et en Essonne, à l'exception de Paris. Donc, l'objectif est d'identifier des foyers potentiels de contamination. Une campagne de très grande ampleur qui pourrait concerner par exemple la ville d'Athis-Mons, où une campagne, justement, un dépistage est déjà lancé depuis quelques semaines, Hélène Terzian.
Effectivement, cela fait plus d'un mois et demi, depuis le 11 mai, que plus de 200 personnes se sont vues passer un écouvillon dans le nez, ici, dans cette salle des fêtes de la mairie mise à la disposition de la maison de la santé. Jusqu'à maintenant, ce ne sont que des patients qui sont symptomatiques, qui sont envoyés ici par leur médecin traitant. Sandrine, par exemple, est venue tout à l'heure se faire dépister derrière le paravent.
Il faut que je fasse un test pour voir si j'ai pas le corona, parce que j'ai des douleurs au poumon, mais bon, c'est peut-être lié à autre chose, donc on vérifie.
On y va ? Alors, vous laissez bien le masque sur la bouche, d'accord ? Ça va ? Pour lundi, vous les avez ? Des résultats. Bonne journée.
De l'arrivée des patients en passant par les prélèvements jusqu'à leur envoi en laboratoire, tous les gestes sont maîtrisés. C'est donc très sereinement que l'infirmière Fatima Saïd d'Auvergne envisage, s'il le fallait, d'accueillir de nouveaux patients.
Que ce soit des patients symptomatiques ou que ce soit la population et la personne lambda, pour nous c'est pareil. L'équipe est prête, donc on peut y aller. On est rodé depuis un mois et demi, on le fait, donc on est parfaitement rodé. L'équipe infirmière est opérationnelle et elle sait exactement quelles sont les modalités pour ces tests.
Avec ce dispositif, Athis-Mons a une longueur d'avance, poursuit le médecin généraliste Édouard Kieffer, et il serait ravi que le dépistage monte d'un cran dans sa ville.
C'est une bonne chose qu'on passe à la vitesse supérieure, parce qu'en termes d'efficacité à petite échelle, ça a prouvé son intérêt. Le fait de rechercher des clusters dans la population générale va nous permettre en fait d'isoler les potentiels facteurs de propagation et donc d'anticiper notre réaction derrière, de les surveiller. Plus on teste, plus on trouve et plus on peut réagir derrière.
Alors, on ne connaît pas encore la liste de toutes les communes concernées par ce dépistage massif. On sait en revanche qu'elles sont choisies selon le nombre de médecins par habitant et les remontées sur la circulation du virus.
Hélène Terzian, en direct d'Athis-Mons. J'ajoute que selon une estimation de l'Association des maires de France, la crise sanitaire aura coûté 8 milliards d'euros aux collectivités.
Ce second tour des municipales a plus que quelques heures de campagne pour les candidats et pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes.
Ouais, un scrutin qui intervient plus de 3 mois après le premier tour, ce qui a laissé effectivement le temps aux candidats de fourbir leurs armes, mais aussi d'investir les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, Jean-Sébastien Soldaini, où parfois la campagne a été particulièrement virulente.
Oui, cela s'est notamment vu à 7 dans l'Hérault avec 51 comptes Facebook fermés de faux comptes mêlés à des vrais qui véhiculaient du contenu haineux ou de fausses informations tout en se faisant passer pour des médias locaux. Ce sont principalement des campagnes de dénigrement de candidats avec des commentaires racistes par exemple à Annecy. Alors il y a déjà eu des campagnes haineuses, virulentes par le passé, mais là, Fabienne Greffet, spécialiste politique et réseaux sociaux à l'Université de Lorraine, remarque que le contexte lié au coronavirus donne plus de visibilité à ces actions.
Les candidats, les listes sont privés de leur répertoire d'actions qui consiste à organiser des réunions publiques, éventuellement faire les marchés. Et donc le fait que la campagne se soit déplacée vers les réseaux sociaux va produire une capacité pour des groupes hostiles de beaucoup plus réagir d'une part et d'être rendu beaucoup plus visible.
Des dérives que Facebook assure combattre pour, je cite, « protéger l'intégrité des élections, fake news, faux comptes, le contenu est supprimé ». Il peut aussi être pénalisé par le réseau social, c'est-à-dire que sa visibilité est diminuée. Le réseau en arrive là par des signalements ou encore par des enquêtes internes lorsque un nouvel utilisateur se comporte à l'opposé de ce que ferait un novice en postant immédiatement des dizaines de messages.
Voilà cette campagne, les enjeux, on y revient avec les grandes voix dans 20 minutes maintenant dans ce studio. Et dimanche soir, vous avez rendez-vous avec Wendy Bouchard et Sébastien Krebs à partir de 19h30 pour la grande soirée municipale sur Europe 1.
L'information ce soir, c'est ces 1700 emplois supprimés chez Sanofi, un plan qui concerne un millier de postes en France, on le savait déjà. Le géant pharmaceutique français assure qu'il s'agira d'un plan de départ volontaire étalé sur 3 ans qui n'a aucun lien avec les conséquences de la crise sanitaire mais qui est rendu nécessaire par une nouvelle stratégie.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, la technique de la clé d'étranglement à nouveau remise en cause. Une policière porte plainte contre l'un de ses collègues.
Et puis reprise timide de la fréquentation dans les salles de cinéma cette semaine. Et l'été risque d'être morose avec le report des sorties de deux gros blockbusters, Milan et Tenet.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Un policier, Lionel, mis en cause après avoir pratiqué une clé d'étranglement à l'une de ses collègues.
Effectivement, deux enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes après la plainte de la policière contre son collègue donc, qui aurait voulu s'exercer à cette fameuse technique d'interpellation. L'incident serait survenu à la suite d'une discussion entre les deux fonctionnaires qui se trouvaient à bord d'un train de banlieue parisienne, Guillaume Billet.
Oui, la scène se déroule vendredi dernier à bord d'un TER entre la Seine-et-Marne et la gare de Lyon. À l'écart des voyageurs, une discussion s'engage entre policiers à propos des techniques d'interpellation et notamment de la clé d'étranglement très controversée. D'un côté, un agent de la police aux frontières d'Orly qui ne se sent pas très à l'aise avec cette technique, dit-il, qu'il n'a pratiqué qu'une seule fois à l'école de police. Et face à lui, une policière rompue à cette technique parce qu'elle s'occupe habituellement des reconduites à la frontière. D'ailleurs, elle trouve son collègue un peu trop zen, lui dit-elle, pour ce genre de mission. Alors, le policier propose de s'exercer à la clé d'étranglement sur sa collègue, ce qu'elle accepte, sans imaginer qu'il va employer une telle force. Il faudra l'intervention de plusieurs autres policiers pour lui faire lâcher prise. La fonctionnaire blessée a porté plainte. L'IGPN devrait être chargée de l'enquête judiciaire, tandis qu'une enquête administrative est déjà ouverte au sein de la police aux frontières en vue d'une éventuelle sanction. Le policier mis en cause n'est pas suspendu à ce stade, mais il a changé de mission. Il n'est plus sur le terrain au contact du public.
Merci Guillaume Billet. La prison à vie pour le Britannique qui avait jeté dans le vide un petit garçon français du 10e étage du musée de la tête moderne à Londres. C'était au mois d'août dernier. Âgé de 17 ans au moment des faits, le meurtrier était atteint de troubles psychiatriques. Cela n'a pas empêché cette peine de réclusion criminelle. Donc, l'enfant, victime de multiples fractures et d'une hémorragie cérébrale, est encore aujourd'hui lourdement handicapé.
Et on attendait ça depuis 3 mois maintenant, le retour dans les salles de cinéma. Alors, quel bilan pour cette première semaine?
Après une première journée de lundi plutôt satisfaisante, la fréquentation du reste de la semaine semble plutôt mitigée. Bonsoir Mathieu Charrier.
Bonsoir à tous.
Est-ce que vous avez pu obtenir les premières tendances?
Oui, alors effectivement, ça avait commencé assez fort lundi-mardi avec une fréquentation des salles de l'ordre de 60 à 70% comparé à la même époque l'année dernière. Et ensuite, eh bien, ça a un petit peu ralenti. Résultat, je peux vous donner le chiffre ce soir, un peu plus d'un demi-million de Français sont, à l'heure qu'il est, allés dans un cinéma depuis leur réouverture. C'est beaucoup moins que les semaines classiques où ce sont plusieurs millions d'entrées qui sont enregistrées. Mais c'est déjà très bien, se réjouit Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français.
Les cinémas sont ouverts, le public vient. La comparaison des chiffres ne sert à rien. Il n'y avait pas de coronavirus l'année dernière. C'était la semaine de la fête du cinéma l'année dernière. Donc forcément, on ne peut rien comparer. Donc je crois qu'il faut arrêter. Les restaurateurs, c'est pareil. Quand ils ont ouvert leur restaurant, ils n'ont pas passé leur temps à comparer. Ce qui est important, c'est que les spectateurs reviennent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude chez nos collègues, c'est très clair. La déprogrammation des films américains n'est pas une bonne nouvelle.
Ah oui, car c'est la mauvaise nouvelle du jour. Les deux films américains qui devaient attirer du monde en salle en juillet, Mulan de Disney en image réelle et Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, la sortie de ces deux films a de nouveau été repoussée en raison de la situation critique liée au coronavirus aux États-Unis. Ce sont donc les films français seuls, comme tout simplement Noir, Divers Club de Michael Youn ou Été 85, signé François Ozon, qui vont devoir attirer cet été les spectateurs en salle.
Merci Mathieu Charrier. C'est bien Mulan. Hein
ouais. Mulan,
on est d'accord.
Franchement, vous devriez connaître. Je connais. Merci à vous deux. On se retrouve bien à Le Gougenot à 18h30. Anissa, la nuit s'annonce agitée avec de nombreux départements en vigilance orange.
Oui, 20 exactement, Nathalie. 20 départements en vigilance orange aux orages. C'est une dégradation orageuse très marquée, hein, avec une activité électrique très importante qui débute actuellement par le sud-ouest et l'Auvergne et qui gagne le centre ce soir. Je vous le disais, forte activité électrique, mais pas que. Violentes rafales de vent, des pluies intenses, de la grêle et puis toujours ce pic de chaleur. Alors il faut savoir que là, nous avons de la pluie et des orages sur Montluçon, sur Clermont-Ferrand, sur Strasbourg. Un orage arrive avant 19h du côté d'Amiens. Alors cette nuit, nous aurons des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, en passant par le Limousin, l'Auvergne, le centre, la région parisienne, la Normandie et les Hauts-de-France, des orages. Donc vous allez passer une nuit avec pas mal de bruit. Demain matin, sur la moitié nord du pays, le temps est encore à la pluie, avec des orages sur le nord-est. Et puis demain après-midi, du Pays Basque à la Côte d'Azur, et bien là il fait beau. D'ailleurs, c'est le seul endroit où il fera beau demain en France. Voilà, c'est dans le sud, au bord de la Méditerranée. En Auvergne, le tonnerre gronde encore demain après-midi, et sur tout le reste du pays, et bien c'est une journée où on aura une éclaircie, un nuage, une averse. Tout cela au long de la journée. Les températures, 14 à 21 degrés demain matin. Dans l'après-midi, ça baisse un peu avec 20 à 25 au nord, 18 à 22 en Bretagne, 25 à 30 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 33 au bord de la Méditerranée.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy. Oui, parce qu'ils risquent leur vie toute l'année pour nous, les sauveteurs bénévoles de la SNSM. 37 000 personnes secourues l'an dernier. L'association qui organise tout ce week-end une action nationale de sensibilisation sur Internet. Et on en parle dans un instant avec mon invité, Marc Sauvagnac, directeur général de la SNSM.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et votre invité ce soir, vous recevez Marc Sauvagnac, directeur général de la Société nationale de sauvetage en mer.
Bonsoir Marc Sauvagnac.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. C'est aujourd'hui la 4e journée nationale des sauveteurs en mer qui permet de rappeler qu'il s'agit de bénévoles, des bénévoles qui ont besoin de nos dons pour faire fonctionner les stations du littoral français. L'État a annoncé l'augmentation de sa contribution au financement de la SNCM à hauteur de 4,5 millions d'euros. Est-ce que c'est une satisfaction, un soulagement ?
Oui, bien sûr. Ça fait déjà quelques années que la SNCM alertait l'État sur la nécessité de mieux contribuer au financement de nos investissements, notamment du renouvellement de la flotte de sauvetage. Et on est parti de 2 millions en 2013, on est aujourd'hui à 10,5 millions de la part de l'État. Les financements publics ne représentent que 20% pourtant du financement de la SNSM, puisque, comme vous le disiez, c'est une association de bénévoles dont le fonctionnement repose essentiellement sur la générosité du public.
Ah oui, alors c'est effectivement toute la difficulté aussi pour vous. Un plan de transformation de la SNSM est soumis au vote des bénévoles. En effet, quelles seront ces transformations ?
Alors il y a une demande générale d'une certaine forme de démocratie, enfin, d'un peu plus de démocratie, d'échange. Vous savez, les organisations comme la SNSM se modernisent, elles se structurent. Elles ont tendance, comme toutes les structures, à se centraliser. Il est nécessaire de mieux échanger encore avec nos bénévoles qui sont dans 214 stations de sauvetage, dans 32 centres de formation un peu partout en France. Donc il est nécessaire de dynamiser cette association, d'en changer légèrement la gouvernance.
Alors le contexte est particulier, on est post-crise bien sûr, avec peut-être une augmentation que vous aurez relevé des comportements à risque à la suite du déconfinement. Est-ce que c'est le cas et avec des chiffres ?
Alors écoutez, c'est un peu tôt pour l'instant, les plages vont commencer à ouvrir lentement. Les gens commencent à partir en mer. On va avoir une fréquentation, on l'espère, importante. Ça, c'est pour le tourisme. Et puis pour la SNSM, je pense que ça va être une situation relativement normale. Il faut faire évidemment attention à l'hivernage, à la reprise des activités, que ce soit des activités physiques, hein, de personnes qui sont restées chez elles pendant plusieurs mois, ou que ce soit simplement la préparation des bateaux, des embarcations, des kitesurf, etc. Il faut que le matériel soit bien révisé avant de partir. Il faut que avant de partir en mer, il faut toujours se préparer. Il faut regarder la météo, il faut préparer son matériel. Donc ça, ça reste des consignes permanentes de la part des sauveteurs.
Avec la crise, toujours, comment le travail des sauveteurs en mer a-t-il été affecté ?
Eh bien, comme tout le monde, on a été confinés dans un premier temps, mais rapidement, nous avons décidé d'agir. Vous savez, les sauveteurs ont la solidarité chevillée au corps, et puis ce sont des secouristes. Mmh. Ils sont formés au premier secours, et alors qu'ils continuaient des actions en mer, puisque nous avons continué à faire des interventions auprès des pêcheurs, notamment, qui continuaient leur activité, et puis nous avons également fait des transports sanitaires entre les îles et le continent, comme nous le faisons habituellement, pour des malades, des blessés. Et puis, nous avons développé des opérations de soutien à la population qui nécessitaient ces qualifications de premier secours ou d'aide simple à la population pour faire des courses ou encore d'accompagnement des malades dans le cadre des TGV qui ont été dépêchés vers la Bretagne.
Je rappelais ces victimes. 3 personnes sont mortes sur le littoral atlantique, une jeune femme de 25 ans en Charente-Maritime et un couple dans les Landes hier. Est-ce que pendant le confinement, il y a eu des excès et des prises de risques et des moments vraiment extrêmement où vos équipes se sont mises en danger ?
Non, écoutez, pendant le confinement, ça a été... globalement très bien respecté. On peut remercier d'ailleurs tous les plaisanciers, tous ceux qui profitent du littoral habituellement, d'avoir respecté les consignes. On s'inquiète plutôt, mais ça c'est plus général et pas lié à la crise du Covid, on s'inquiète plus généralement, vous savez, du manque d'équipement pour se localiser, pour alerter quand on part en mer, surtout pour les loisirs nautiques, le paddle, le kitesurf, le kayak, mais également pour toute la petite plaisance. Il faut rappeler que les bateaux de plaisance, 80% de la flotte de plaisance sont des bateaux de moins de 7 mètres qui ne sont généralement pas équipés du matériel pour se localiser et alerter. Ça, c'est extrêmement important. Alors, la SNSM est un peu en rogne pour tout vous dire parce qu'on a développé un outil qui le permet très facilement, qui s'appelle Dial. Et on aimerait bien que les personnes s'équipent parce que ça permettrait pour elles d'alerter tout de suite.
Pourquoi n'est-il pas développé, cet outil ? Pourquoi...
Il est développé, il est mis en vente. Alors, la SNSM ne gagne pas d'argent particulièrement dessus. Il est mis en vente sur le site, sur la boutique de la SNSM. Et c'est une balise GPS qui permet une localisation permanente de la personne qui le porte et qui, en cas de problème, peut directement, par le truchement d'une personne référente à terre, alerter les secours qui connaissent immédiatement la position de la personne en difficulté.
D'accord. Le 7 juin, en pleine tempête, Marc Sauvagnac, 3 bénévoles de la SNSM des Sables-d'Olonne perdaient la vie en mer en tentant de secourir un pêcheur en difficulté. On se souvient de l'émoi national que cela avait engendré, avec d'ailleurs une large levée de fonds. Que reste-t-il aujourd'hui du soutien national aux sauveteurs en mer ?
Écoutez, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ça a été un vrai tremblement de terre déjà au sein de la communauté des sauveteurs, de la communauté maritime, de l'État, vous l'avez rappelé, avec un soutien de l'État qui s'est accru. Et puis, il a fallu un peu le temps du deuil pour nous. La générosité du public s'est largement exprimée en 2019. Là, on est encore dans une période très, très
compliquée,
dans laquelle on est attentiste. On ne sait pas encore si la générosité qui s'est exprimée va le continuer. Nous encourageons évidemment tous ceux qui aiment la mer, tous ceux qui reconnaissent cette solidarité, cette générosité des sauveteurs, à continuer à nous accompagner et surtout pas nous lâcher parce que les besoins sont immenses, des besoins en formation, avec une population de sauveteurs qui est de moins en moins issue des professions maritimes, et puis de besoins pour renouveler la flotte de sauvetage avec 150 bateaux à renouveler dans les 10 années qui viennent.
Mais là, si on prend cette saison estivale qui s'ouvre, alors elle est particulière bien entendu, elle commence là, à peine elle va se terminer en septembre, vous avez les moyens financiers matériels pour gérer ?
Écoutez, pour l'instant, on peut dire que ça va, grâce à la générosité qui s'est exprimée en 2019. On a des plans d'investissement extrêmement importants avec une nouvelle flotte de sauvetage dont les premières unités vont commencer à être construites en fin d'année, l'année prochaine. Et puis, ça va être le doublement de nos dépenses d'investissement avec le renouvellement de cette flotte importante et notamment de nos navires hauturiers, c'est-à-dire ceux qui vont le plus loin. Et on en a une quarantaine à renouveler en plus de l'ensemble de la flotte de sauvetage. Donc, c'est 100 millions d'euros dans les 10 années qui viennent en investissement et c'est le doublement du plan de formation. Aujourd'hui, on dépense à peu près 5 millions d'euros en formation. Il va falloir doubler pour former nos sauveteurs au secourisme, au sauvetage, à la récupération des naufragés, à la recherche et au premier secours.
Merci beaucoup Marc Sauvagnac d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1, directeur général de la SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, c'est un journal complet. Lionel Gougelot sera à mes côtés dans une seconde. Les grandes voix arrivent dans la foulée. On va sur les municipales. Dimanche, édition spéciale sur Europe 1 à partir de 19h30. Commence tout cela se présenter, bien sûr, les gens en jeu. C'est avec eux, les grandes voix du vendredi.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Lionel Gougelot.
L'auteur de l'agression au couteau cet après-midi dans les rues de Glasgow a été tué par la police. Une attaque qui a fait 6 blessés aux abords d'un hôtel accueillant des réfugiés. On ne connaît pas encore les raisons de son geste. Consciente de l'émoi suscité, Nicole Belloubet demande un rapport sur les investigations du parquet national financier après la révélation d'investigations sur les factures téléphoniques, notamment de l'avocat de Nicolas Sarkozy. Rapport qui portera sur les modalités des réquisitions effectuées, leur étendue et leur durée. Un investissement à 700 millions d'euros pour le rachat de l'Olympique de Marseille, un projet porté par l'ancien président du rugby club toulonnais Mourad Boudjelal, rachat qui serait mené par un groupe d'investisseurs du Moyen-Orient. Et puis cette fois, c'est gravé dans le marbre. La Fédération française de foot confirme la décision d'une Ligue 1 à 20 clubs la saison prochaine, entérinant ainsi la rétrogradation de Toulouse et d'Amiens en Ligue 2. Les dirigeants du club Picard ont quand même annoncé aujourd'hui leur volonté d'engager un nouveau recours devant le Conseil d'État.
Merci Lionel, 19h, un nouveau journal complet avec vous. Anissa, du côté du ciel, ça se couvre sérieusement, vigilance même aux orages cette nuit.
Oui, effectivement, nous avons 20 départements, Nathalie, placés en vigilance orange pour cette nuit. Des départements qui se trouvent entre le sud-ouest et le massif central. Donc, grande prudence si vous nous écoutez ce soir dans ce secteur, puisque ces orages seront accompagnés d'un fort risque de grêle et des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Donc, la situation sera très agitée. Demain, nous irons vers une accalmie avec toujours des orages de l'Alsace jusqu'à la Corse, hein, tout le long des frontières de l'Est. Partout ailleurs, ça sera du soleil, des nuages et des averses. Les températures toujours élevées, 14 à 20 degrés demain matin, 25 à 30 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 33 dans le sud.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et comme tous les soirs jusqu'à 20h. Les grandes voix sont là autour de vous, Nathalie. Ce soir, Michel Cotta, Emmanuel Duteil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Bonsoir les grandes voix du vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir
bienvenue,
à tous.
Bienvenue dans ce studio. Ça y est, plus que quelques heures avant ce second tour des municipales, il aura tardé, compte tenu évidemment de cette crise sanitaire. On y est tout presque, fébrilement ou pas, vous allez me dire ça dans quelques instants pour notamment la capitale, mais aussi un certain nombre de grandes villes où il y a encore des questions à se poser. Michel Cotta, là, les dernières heures, pour Anne Hidalgo, par exemple, si on regardait Paris, elles sont sereines ces dernières heures.
Pour Anne Hidalgo, sûrement, mais il y a des gens pour lesquels c'est
beaucoup
moins certain. En tout cas, hier soir, il y a eu un débat entre les trois dames de Paris, dans lequel il me semble que Rachida Dati a marqué le rythme et marqué le train, que Agnès Buzyn s'est un peu... c'est un peu laissé aller à quelques vindictes, quelques vengeances contre Anne Hidalgo, mais qu'Anne Hidalgo a été en dessous d'elle-même. Alors, c'est quelqu'un qui est sûr, au fond, qui se dit « j'ai 44%, je m'assois sur les 44%, autant ne pas faire attention à ce que disent les autres ». Mais c'était un drôle de débat entre... trois dames.
Entre trois dames.
Ce qui est significatif en soi.
Avec parce que, une forme de platitude quand même, un certain nombre de moments. Frédéric Dabi, vous avez regardé aussi, vous avez enquêté aussi, et vous nous livrez là, à J-2, une dernière enquête d'opinion qui conforte.
Oui, c'est vrai que c'est la dernière enquête d'opinion IFOP fiduciaire pour le journal du dimanche qui donne... En continuité avec les enquêtes précédentes, Anne Hidalgo nettement en tête, 44%. Ce qui frappe, c'est qu'elle a une sociologie très homogène. Elle attrape tout, sauf chez les personnes âgées. Elle est majoritaire dans les arrondissements de gauche. C'est le plus important, puisque Paris, ce n'est pas une élection, c'est 17 élections. Mais comme le disait Michel, il y a une petite dynamique en faveur de Rachida Dati qui passe de 33 à 35%, qui progresse dans les segments traditionnels de la droite, les personnes âgées, les arrondissements de droite. Et au contraire, Agnès Buzyn, avec 18%, symboliquement, arrive à son score de premier tour. Et surtout, on a posé la question de la sûreté du choix. Ouais. Presque 3 électeurs de Buzyn sur 10 pourraient encore changer d'avis. Peut-être
pour
que...
en faveur de...
En tout cas, des électeurs de Buzyn qui pourraient aller soit chez Dati, soit chez Hidalgo. Ça se partagera. Mmh. Mais en tout cas, elle est quand même sur un toboggan. Et ça marque la fin de cette campagne absolument cauchemardesque pour La République En Marche. Je rappellerai que notre premier sondage fait il y a 2 ans donnait une avance au premier tour de 4 points pour Benjamin Griveaux, 32 contre 28.
Ça c'était avant.
C'était il y a 2 ans. C'était seulement il y a 2 ans.
Mais ça paraît effectivement.
Ça fait un siècle.
Avec évidemment, on va aller sur l'angle économique des choses, parce que bien sûr, Emmanuel Dutheil, il y a aussi cet enjeu-là très fort. Les municipales, ça marque aussi, enfin ce second tour, ça va marquer aussi un tournant. En tout cas, peut-être un nouveau...
C'est déterminant pour la relance économique, puisqu'on le sait très bien, hein, quand un maire va être élu quelques mois avant, il ne fait plus rien. Donc, beaucoup de gens du côté du bâtiment et ce genre de choses s'inquiétaient beaucoup d'un éventuel report au-delà de juin, puisque ça voulait dire que vraiment, on n'allait rien faire. Il y a ce premier point. Il y a le deuxième point, alors je pense qu'on en reparlera après d'un point de vue plus politique, mais c'est également très intéressant d'un point de vue économique, c'est si les Verts remportent énormément... de municipalités ou des villes en tout cas importantes, ça va aussi changer la donne parce que tous les programmes sont contre un meilleur immobilier, de nouvelles façons de construire, de sortir à la voiture.
Plus de pistes cyclables, etc.
Et tout ça, c'est un impact économique. Et je peux vous dire que du côté notamment du BTP, on regarde... On glose souvent sous le Nouveau Monde, et puis franchement, là, depuis quelques semaines, on se dit que le Nouveau Monde, il a quand même un sacré goût d'arrière-monde. Mais je peux vous dire que d'un point de vue municipal, cette mais bien donne sûr. Se verra rien qu'au niveau de l'immobilier.
Ce sera la traduction.
Il y a une action majeure aujourd'hui, c'est-à-dire une partie des Verts très extrémistes sur l'aéroport d'Orly, essayant de freiner le redépart de l'aéroport d'Orly. Ça veut dire quand même beaucoup de signes à donner aux différents patrons et aux différents hommes politiques.
Je rajouterai deux petits points. Ce que vous dites est très juste pour les villes, mais c'est encore plus vrai pour les communautés d'agglomération, communautés de communes qui sont à l'arrêt complet depuis maintenant plusieurs mois. Et puis c'est vrai que ce saut dans l'inconnu, ce cauchemar économique, si les Verts gagnaient quelques villes, est minoritaire dans l'opinion, mais est très fort chez les électeurs de droite et chez les électeurs d'En Marche. Ce qui explique aussi dans de très nombreuses villes, Strasbourg, Lyon, des alliances qui étaient perçues comme contre nature, mais qui sont en fait des alliances contre les Verts.
C'est vert, parce que allons-y sur l'aspect politique des choses. Ils sont aux portes des grandes villes, on le dit, on le répète depuis des semaines. Si le compte n'y est pas dimanche, alors qu'il y a eu les européennes, alors qu'on voit bien... On voit bien cette poussée.
Alors, Nathalie, vous parlez des européennes, ce n'est pas anodin. Si la poussée des Verts se confirme, ce sera la première fois qu'une tendance issue des élections européennes est confirmée à une élection suivante. Ça n'avait jamais été le cas. La percée des Verts, déjà,
c'est
avec
pour
des
ça que j'ai dit, alors, 2009, ça peut encore ne pas arriver.
On va quand même, il y a beaucoup de villes où ça se joue à rien. Ouais. Par exemple, Toulouse, par exemple, Lyon. La tendance, c'est quand même que les Verts gagnent plus de villes.
Mais l'histoire ne parle pas dans ce sens-là. C'est pour ça que je faisais référence aux Européennes.
Là où c'est étonnant, ce n'est pas des petits villages. Ils gagnent de grandes villes, parce que quand on voit la liste, donc Lyon, où il y a des chances, Besançon, Tours, Marseille, avec cette découverte complètement, cette jeune femme qui était complètement inconnue, Rubirola.
En face de Vassal,
du printemps marseillais. Exactement. Donc vraiment avec de nouveaux visages, de nouveaux visages et une liste impressionnante de conquêtes possibles contre lesquelles, mais ça je pense que ça posera aussi des problèmes politiques importants, contre lesquels donc l'Union, la République en marche, LR, fera sans doute
on va y venir aussi dans
que,
un instant.
Le Parti Vert sera le seul, peut-être le premier parti d'opposition.
Alors on continue justement, on va regarder les LR, comment ils se sortent a priori de ces élections, dans un petit instant zoomer sur eux, et puis bien sûr les divisions, et puis tout ça nous amène à quoi, le remaniement très certainement semaine prochaine. On va voir tout ça avec vous les grands dans un instant.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Michel Cotta, Emmanuel Dutheil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Alors on se projette, bien sûr, les municipales, le second tour, c'est enfin dimanche, on y arrive. Et puis il y a l'après. Je voudrais quand même qu'on se dise un mot de ces alliances, La République En Marche, LR, Frédéric Dabi, Michel Cotta, parce que ces Républicains, on les a pas entendus vraiment pendant cette crise. Ils ont pas réussi à se démarquer, même s'ils ils gardent des villes, bien sûr.
Mais ils avaient eu une victoire, une victoire considérable. Aux dernières municipales, parce qu'ils avaient conquis 140 villes à la gauche. Donc quand on a un tel courant, on ne peut que perdre à l'élection qui suit. Mais c'est vrai qu'on a vu à cette occasion que les Républicains n'avaient pas de leader, Christian Jacob fait ce qu'il peut, mais c'est pas un leader naturel. Barouin n'a pas dit un mot. Enfin, tous les grands. Bertrand a quand même un peu parlé, mais il est à la marge maintenant.
Valérie Pécresse, pareil.
Donc, au fond, c'est vrai que leur silence fait du bruit.
Voilà, la formule est là.
Je pense qu'on peut être quasi sûr qu'au soir du second tour dans les villes de plus de 10 000 habitants, le parti dominant sera les Républicains. Pour autant, il pourrait y avoir le même phénomène qu'en 2001, où il y avait une poussée de droite très très forte, mais les défaites à Paris, Lyon et un degré moins Dijon avaient éclipsé les choses. Là, c'est vrai qu'il y aura sans doute une stabilité et beaucoup de mairies LR, mais si LR perd Toulouse, si elle perd Marseille, ça fera très très mauvais genre.
On fait un petit pas de côté, le Rassemblement National en mauvaise posture aussi pour ce second tour. Bien sûr, il y a eu sur le premier tour des acquis, 7 villes où des maires ont été réélus le 15 mars, mais on est très loin des espérances.
Je dirais que comme un parti traditionnel, il a quasiment conservé tous ses sortants. Il y a encore un enjeu sur Marseille, sur le Luc et sur, je crois, Mantes-la-Ville. Mais c'est vrai
on n'est pas sur des gros enjeux.
Le RN, d'abord, a présenté moins de listes qu'en 2014, ce qui est étonnant pour un parti qui veut exercer le pouvoir. Il a été fracassé dans sa sociologie par l'abstention. On sait que ce sont surtout les jeunes, les catégories populaires qui n'ont pas voté le 15 mars. Et ce sont des catégories qui sont au cœur du vote RN, et puis il n'y a qu'un enjeu pour eux,
c'est
Perpignan, qui est plutôt bien parti, ça reste indécis, c'est un duel.
Mais c'est ça, c'est un duel, et puis Perpignan, c'est Louis Alliot, qui a quand même, sur ses affiches, qui n'a plus le RN affiché.
Une stature particulière, qui s'est un peu
Qui a pris des distances, clairement.
Qui se cache de ses relations anciennes ou actuelles avec Marine Le Pen. Mais c'est vrai que les Républicains resteront sans doute avec une partie de ce qu'ils avaient conquis il y a...
Une grosse partie.
Mais ce n'est pas des villes emblématiques.
On ne peut pas dire... C'est pas des villes emblématiques. Et puis, en plus, on ne peut pas dire que c'est une campagne dans laquelle ils ont brillé. Même si la campagne a quand même, à mon avis, même si la période, à mon avis, a quand même favorisé pas mal de maires sortants, parce qu'ils ont très bien organisé le déconfinement ou les plages.
C'est ce que dit d'ailleurs beaucoup Marine Le Pen pour justifier effectivement ces mauvais résultats.
Sortant jouera sans doute, quand même à leur faveur, marginalement peut-être, mais il jouera.
Je recevrai justement Nicolas Bay dans quelques minutes, député européen, membre du Rassemblement National, à 19h20 pour être exact. Emmanuel Dutheil, sur le Rassemblement National, vous entendez ?
Non, je disais juste que malgré tout, s'ils emportent Perpignan, ce sera quand même une très grosse prise pour eux. C'est-à-dire que c'est un nouveau plafond de verre qui tombera, et à la rigueur, s'ils devaient même gagner que ça leur suffirait pour...
Seule ville de plus de 100 000 habitants.
Ils avaient gagné Toulon il y a très très longtemps, en 95. C'est vrai que comme pour la République En Marche, le vote aux élections municipales, cette élection est la pierre pour le Rassemblement National. Le vote repose sur un triptyque bilan, projet, incarnation, et ce sont des dimensions sur lesquelles le FN, le RN est faible. Rien à voir avec le vote d'étiquette ou de marque que constitue le vote aux élections européennes où ils sont arrivés en tête.
Quelques maires ont gardé du RN, ont gardé leur ville.
Bien sûr.
Parce que, vous vous rappelez, il y a quelques années, le Front National avait perdu immédiatement. Les maires avaient été immédiatement éjectés.
Là, pas du tout. Dès le premier tour,
là, ils sont restés, ils sont encore là. Donc,
alors. On va compter avec eux. Bah oui, bien sûr. Alors, de toute façon, on va regarder, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça le 28 au soir, on regarde évidemment dans quel délai on fait le remaniement. Ça se prépare. On sait bien qu'il y a eu ce dîner en tête-à-tête Édouard Philippe, Emmanuel Macron, il y a une huitaine de jours maintenant. C'était le point qui parlait de ce dîner. On va peut-être y venir dans quelques instants. On se retrouve ensemble les grandes voix. Et puis, bien sûr, cette rentrée économique avec cette crise. Est-ce que le pire est passé ? Emmanuel Dutheil, vous avez peut-être des éléments de réponse, vous. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix, Michel Cotta, Emmanuel Dutheil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Édouard Philippe est-il incontournable ? Quels sont les ministres fragilisés et ceux confortés, ceux qui pourraient entrer au gouvernement ? Ce remaniement, il pointe le bout de son nez sans doute la semaine prochaine, peut-être début, peut-être fin de semaine. En tout cas, on y verra sans doute plus clair avec quelles indiscrétions, parce que les grandes voix, vous êtes informés, mais on entend un peu tout et son contraire quand même, Frédéric Dabi, depuis des semaines.
Donc on n'est pas informé sur les ministres exactement qui vont participer au futur gouvernement. Ça, non.
C'est toujours classique, c'est toujours des moments où ça bruisse. Je suis toujours frappé par le décalage avec le désintérêt relatif des Français et le fait que rarement un remaniement a créé un choc psychologique et une rupture d'opinion. C'est vrai qu'il y a quand même un choix assez important pour Emmanuel Macron, maintenir un Premier ministre populaire comme jamais et qui tient l'édifice macronien, c'est-à-dire en étant si fort dans les segments de droite, ou bien renverser la table et se lancer dans la présidentielle.
En fait, c'est ça. C'est évidemment, est-ce que Philippe est incontournable, oui ou non, et va-t-il l'être pour Emmanuel Macron ?
Et en plus, c'est l'équation particulière qui sortira de ces municipales quand même. À partir du moment où le Nouveau Monde parlera d'écologie, de construction verte, etc. Mais où le principal parti d'opposition contre Macron sera les écologistes, ça va quand même poser quelques problèmes au gouvernement qui arrive. Si c'est un nouveau gouvernement, ou Édouard Philippe s'y reste.
Alors évidemment, il y a des ministres fragilisés, on pourrait les citer, on peut aussi éviter. Il y a des ministres fragilisés, et puis Emmanuel Dutheil, il y a aussi ce qui est à l'arrière, l'arrière-salle en quelque sorte, qui va aussi être remué.
Ouais, je déjeunais avec un ministre de premier plan là, il y a de cela quelques jours, et très clairement, ce qui se dit au sein de l'exécutif, c'est qu'il y a eu une certaine faillite de l'administration dans certains ministères. Alors, souvent, on cite l'administration de la santé, hein, qui n'a pas pu prévoir les masques et ce genre de choses. L'éducation nationale aussi est souvent citée parce que ça a été quand même très lourd de mettre en place le télétravail. Donc, ce sur quoi il travaille, selon ce ministre de premier plan, mais qui avait l'air d'être quand même plutôt au courant de ce qui était en train de se tramer, c'est de travailler sur 4-5 gros ministres qui seraient à la tête de très gros pôles. Donc, sûrement un pôle social. Alors, le nom de Gérald Darmanin revient souvent autour du pôle social, puisque on sortirait à ce moment-là peut-être Muriel Pénicaud, qui a un petit peu de mal dans les médias à faire passer les mesures, malgré un énorme boulot qui a pu être fait, notamment pendant la crise. On va sûrement renforcer d'une manière ou d'une autre le pôle Bercy. En tout cas, c'est ce dont ils rêvent à Bercy, parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont les mieux travaillé pendant la crise, que ceux qui dirigent tout seuls. Et c'est vrai que c'est quand même encore l'administration de Bercy, ce qu'on appelle la direction du Trésor, qui objectivement a fait un boulot quand même assez massif. Et c'est vrai que c'est encore là où les plus beaux cerveaux de l'État sont sûrement présents. Et puis, il va falloir, par rapport à ce que disait très intelligemment Michel, il va falloir répondre à la question écologique. Donc, je crois qu'ils sont désespérément en train de chercher une personne qui puisse incarner...
Il y a un Pascal Canfin qui
roule.
Il est complètement connu des Français. Doit être incarné. Bah, c'est vrai que les soucis seraient gagnants.
Il n'y a pas 100 000 possibilités. Non, Nicolas Hulot s'est fait, Ségolène Royal.
C'est en pardon, mais j'ai beaucoup, depuis des années, j'ai toujours vu qu'à tous les remaniements et à toutes les formations de gouvernement, on dit on va faire 4 gros ministères. Voilà, 4 gros, puis on ne sera pas nombreux.
Un peu plus certain, c'est que pour les 2 années qui viennent, ils ont conscience qu'il faut mettre une vraie équipe de combat.
Et du 15 de France, voilà, à une époque. C'est vrai que c'est toujours des formules.
Le combat, le pack de combat, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, quand c'est vrai que les administrations et surtout la santé, bah, d'ailleurs, on le disait hier avec le professeur marseillais qui a dit ça, c'est vrai que il y a des services qui ne marchent pas, qui sont les uns contre les autres, que l'intendance ne suit pas. Alors, est-ce que l'intendance suivra avec le prochain gouvernement?
Oui, peut-être deux choses pour un peu nuancer cette idée d'importance du remaniement. Clairement, les Français sont sur une logique de résultat, notamment sur les questions économiques, plus que sur une logique de casting. Les questions économiques, oui, mais par rapport aux crises passées, des questions environnementales n'ont pas été reléguées. C'est ce qui explique aussi la dynamique pour Europe Écologie Les Verts. Et de plus en plus, les Français ont bien vu des dysfonctionnements de l'administration de l'État et attendent beaucoup. Et c'est un nouvel acte de décentralisation qui émerge, d'où la très forte importance à accorder aux élus locaux, aux présidents de région. Une autre question, report ou pas des élections régionales,
c'est un élément crucial. Évidemment. Alors, si on parle économie, c'est là où je me tourne encore vers vous, Emmanuel Dutheil, et où je prends dans ma voix cette phrase. Le pire de la crise économique est probablement passé. C'est Christine Lagarde. Oui, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui le dit.
Oui, elle l'a dit. Elle l'a dit ce matin. Alors, je pense qu'elle a en partie raison et quand même un petit peu tort. C'est-à-dire que je pense qu'on va prendre une image, si vous le voulez bien, qui, je trouve, résume assez bien la situation. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Un gigantesque tremblement de terre. Un tremblement de terre de grande importance, ça fait quoi ? Ça dévaste tout et on a des secousses plus ou moins vigoureuses derrière. C'est quoi ces secousses ? C'est tous les plans sociaux tous les jours, je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est également une énorme incertitude. C'est-à-dire qu'on le suit tous les jours sur Europe 1, mais la situation de la crise sanitaire aux États-Unis est cataclysmique. C'est-à-dire qu'on est en train de reconfiner la Floride, interdit de la consommation d'alcool. Je crois que le New Jersey a également pris une décision de reconfiner. Et ça, c'est un soubresaut majeur. Parce que si la première économie du monde ne repart pas, on va prendre un seul exemple. Air France ne sait pas quand est-ce qu'il reprend ses vols vers les États-Unis. Ben, je peux vous dire qu'on ne fait pas vivre longtemps Air France si vous ne faites pas des Paris-New York.
Évidemment.
Donc, elle a raison sur le fait que, on ne peut pas dire le pire de la crise est passé. Le choc est passé. Mais je peux dire que là encore, je suis désolé de citer mon unique source, mon ministre de premier plan avec qui j'ai déjeuné cette semaine.
Mais il me disait,
on sous-estime la dureté de la crise qui est face à nous. Ouais.
On sera en Floride justement à 19h dans le journal pour revenir sur certaines interdictions. Frédéric Dabilly, Michel.
Oui, alors on sous-estime, oui, mais les Français en ont conscience. On n'est pas sur le schéma de 2008 où la crise avait été très peu visible. Il y avait 48 heures de stress sur la garantie des dépôts que l'Europe avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient pu, rassurer. Le chômage avait augmenté, mais beaucoup plus tard, parce qu'en France, on sait que les crises arrivent d'habitude plus tard que dans les autres pays. En 1929, elle est arrivée en 1932. Là, les Français en ont conscience et ils voient. Vous parliez de l'image du tremblement de terre, des répliques quotidiennes. 1000 emplois chez Sanofi, un président de groupe qui fait « on va essayer d'éviter les 1000 suppressions ». Et là, on voit très bien que ça peut créer des tensions sociales et une situation explosive.
Tout le monde s'y attend.
La plus compliquée, c'est qu'à chaque déjeuner de famille ou dîner de famille, vous aurez quelqu'un qui a potentiellement sur
son poste. Et ça, c'est la pire des agressions. On s'attend au chômage des jeunes, donc c'est pour ça que le gouvernement futur aura à gérer le problème des jeunes.
Ça va être avant les annonces, une mesure la semaine prochaine pour l'embauche des jeunes.
Et puis, on voit bien que si les plans sociaux ne sont pas encore faits, et ils le seront dès que le chômage partira.
Bien sûr. L'automne va être...
Donc, il va y avoir un gros combat.
En plus, il va y avoir une accélération qui va être
autour du chômage partiel.
J'ai juste le temps de finir ou vous voulez qu'on s'arrête là? Je vois
lever
les bras.
Juste fini ma phrase.
Il va y avoir une accélération folle puisque la nouvelle formule du chômage partiel entre en vigueur le 1er octobre. Ouais. Bah, ils ont jusqu'au 1er octobre pour signer un accord. Ouais. Je vous explique pas comme du coup fin août, début septembre, vous allez avoir une pelletée de...
Ouais, et Laurent Berger a déjà pris le départ.
Merci beaucoup les grandes voix du vendredi. Merci à vous trois.
Europe 1. Dans un instant, Nathalie Lévy.
C'est un journal complet, Lionel Gougelot. On sera donc en Floride avec cette nouvelle interdiction. Et puis juste après, c'est retour sur les municipales avec Nicolas Bay, mon invité.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et la suite du programme.
Je vous dis tout, parce que c'est vous. Et après 19h, on regarde vers demain. D'abord à 19h20, les municipales, J-2. Nous sommes avec ce soir Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National. En fait, on termine notre série avec les patrons de parti. À 19h30, comme chaque vendredi, votre grand journal du soir se met en mode week-end. Nos idées de balades déconfinées, les sorties culturelles, les bonnes recettes. Tout cela avec la complicité de la rédaction d'Europe 1. Et vous, tiens, au 3921, hashtag Europe 1. Soyez là.
Votre grand journal du soir avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Le port du masque est obligatoire, mais s'ils l'ont oublié ou ils n'en ont pas, nous en avons à disposition. Il a surtout du gel hydroalcoolique.
Second tour des municipales, dimanche, tout faire pour éviter l'abstention sur fond de peur du coronavirus. Nous irons voir à la mairie du 4e arrondissement de Paris ce que sont les mesures adoptées.
Nouvelle restriction d'urgence aux États-Unis face au regain de la pandémie au coronavirus. Fermeture des bars en Floride et au Texas. On rejoint Xavier Yvon, notre correspondant, dans quelques instants. Sale affaire pour Ubisoft. Enquête ouverte après plusieurs accusations de violence et de harcèlement sexuel au sein des studios du fleuron français des jeux vidéo.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, avec une application pour louer votre place de parking à des propriétaires de vélos.
Et demain dans le monde, Didier François, nous verrons quelle réponse l'Europe entend apporter au plan israélien d'annexion de la vallée du Jourdain.
Et la couleur du ciel d'Anissa?
Eh bien, c'est un ciel très agité puisque nous avons actuellement 20 départements en vigilance orange aux orages pour cette nuit. Une forte activité électrique, de la grêle, des rafales de vent. Voilà le programme pour les prochaines heures. Pour demain, c'est encore une journée assez humide. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Le second tour des municipales, les jeux sont faits ou presque pour les candidats qui vivent leurs toutes dernières heures de campagne.
Des candidats qui vont tout bord confondu mouiller le maillot ces dernières heures. Ça a été le cas également ces dernières semaines pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. On craint en effet une abstention massive à cause des craintes liées au coronavirus. C'est la raison pour laquelle les mairies redoublent de vigilance pour garantir la sécurité sanitaire des opérations de vote. C'est notamment le cas à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Vous êtes allée aujourd'hui, Claudia Bertram.
Oui, précaution maximale pour accueillir les électeurs dimanche. Avant même d'entrer dans le bureau de vote, un agent de sécurité sera posté devant pour rappeler les consignes sanitaires, réguler si besoin la file d'attente. Seuls 3 électeurs à la fois pourront être à l'intérieur et ils devront respecter des consignes. François Guichard est en charge des élections à la mairie de Paris.
Évidemment, le port du masque est obligatoire, mais s'ils l'ont oublié ou ils n'en ont pas, nous en avons à disposition dans des boîtes. Il a surtout du gel hydroalcoolique, évidemment, à disposition.
Du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie, comme au premier tour, une nouveauté des hygiaphones, c'est-à-dire des grands panneaux de plexiglas entre les électeurs et les agents du bureau qui, eux-mêmes, seront masqués et équipés de visières, des marquages au sol pour guider les votants. Et avec tout ça, François Guichard se veut confiant.
L'objectif, c'est de limiter au maximum la présence de l'électeur dans le bureau de vote. Et je pense que ce sera un des lieux les plus sûrs, je crois, de Paris, du point de vue sanitaire, les bureaux de vote ce dimanche.
Des procédures qui seront appliquées dans les 872 bureaux de vote parisiens. Coût total de cette opération, 1 million d'euros.
Merci beaucoup Claudia Betram. Et on reçoit dans une seconde, un peu plus quand même, 19h20, le député européen Rassemblement National, Nicolas Bay.
L'auteur de l'agression au couteau cet après-midi dans les rues de Glasgow a été tué par la police. Une attaque qui a fait 6 blessés aux abords d'un hôtel accueillant des réfugiés. On ne connaît pas encore les raisons précises de ce geste, mais selon la police sur place, cette attaque ne serait pas considérée comme terroriste.
L'actualité à l'étranger, justement, c'est aussi la lutte contre le Covid aux États-Unis qui pourrait franchir un nouveau cap. Hein.
Une nouvelle étape, effectivement. C'est la première fois depuis 2 mois que la Task Force Coronavirus de la Maison-Blanche tient une conférence de presse. Mobilisation des pouvoirs publics. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir.
Est-ce que c'est le signe d'une gravité de la situation encore plus importante ?
Ah oui, alors il y a une augmentation des cas, a reconnu du bout des lèvres le vice-président Mike Pence, qui en fait est en train de passer son temps à essayer de minimiser la situation. Pourtant, ça fait 2 jours que les États-Unis battent leur record de nombre de cas en une journée, plus de 41 000 hier. La courbe grimpe depuis 2 semaines dans 30 États sur 50. En fait, il n'y a qu'ici, à New York et sur la côte Est et un peu dans le Midwest, que l'épidémie est sous contrôle. Ailleurs, et surtout dans les États du Sud, il y a une déferlante du virus. Les plus touchés, le Texas et la Floride, viennent d'annoncer la refermeture des bars. Ces deux États très peuplés avaient été parmi les premiers à rouvrir leur économie. Trop vite, trop tôt visiblement. Les rassemblements dans ces bars sont en effet pour beaucoup dans la contamination nouvelle, explique le gouverneur du Texas. Et c'est vrai que dans le sud, ce sont surtout les jeunes qui sont infectés quand on regarde les chiffres. C'est une bonne chose parce qu'ils sont moins à risque. C'est même félicité le vice-président il y a quelques minutes sur le podium. Il a quand même demandé à la jeunesse américaine de, je cite, faire son boulot en respectant les gestes barrières. Il a aussi insisté sur le fait que le nombre de morts du coronavirus, lui, est en baisse continue. En fait, le vice-président tente de ne pas trop fâcher son patron, qui est le grand absent de ce briefing en ce moment, Donald Trump, le président américain, qui lui semble nier la réalité de cette résurgence. Il parle de braise à éteindre et assure dans un tweet qu'il ne refermera pas l'économie américaine.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York, merci à vous. Et on ajoute que devant l'urgence de la situation, Donald Trump décide d'annuler au dernier moment son départ pour le New Jersey où il devait passer le week-end dans son club de golf. Hein.
C'est l'heure de regarder ce qu'il se passe demain dans le monde. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Avec une semaine à venir qui sera très fortement marquée par la question de l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et d'une partie de la Cisjordanie. La France y est fondamentalement opposée et elle tente de mobiliser l'Europe pour faire échec à ce projet. Hein.
Oui, bah parce que la France toute seule n'a strictement aucune chance d'y parvenir. Le gouvernement israélien de coalition qui vient d'être formé est tout à fait déterminé à aller de l'avant. Il sait pouvoir compter sur le soutien des Américains. L'annexion pourrait donc être décidée dès la semaine prochaine. On parle du 1er juillet dans la presse israélienne, ce qui laisse assez peu de temps pour une action diplomatique. Et c'est ce qui explique pourquoi Jean-Yves Le Drian a décidé de hausser le ton en s'exprimant de façon extrêmement claire devant le Sénat.
Nous ne reconnaîtrons pas la souveraineté israélienne sur les territoires annexés. Une décision d'une telle gravité ne peut rester sans réponse. Nous nous préparons à réagir.
Voilà, donc c'est une fermeté inhabituelle sur le sujet, surtout publiquement, puisqu'au cours de son audition, le ministre des Affaires étrangères a même envisagé des mesures de rétorsion économique contre Israël si l'annexion n'était pas suspendue.
Est-ce que ce serait une sorte d'embargo européen contre Israël, donc, Dan?
Oui, tout à fait, en fait, car l'Europe est le premier partenaire commercial, le principal débouché des exportations d'Israël. Donc, seule une réponse européenne aurait des chances de peser sur les décisions du gouvernement israélien. Alors, il y a bien sûr des réticences, hein, la Pologne par exemple, ou la Hongrie, mais pour la première fois, 4 pays essentiels, la France donc, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, envisagent sérieusement de prendre des sanctions économiques contre Israël, avec à minima une interdiction des importations de tout produit israélien qui serait fabriqué dans les territoires palestiniens occupés.
Merci Didier François, on vous retrouve lundi bien sûr.
Bonjour à lundi. Bon
du week-end. Côté de la population sur place, une majorité d'Israéliens craint une troisième intifada. Un
absolument,
troisième,
et puis les militaires sont réticents.
Exactement, merci à vous Didier. Ubisoft dans la tourmente, Lionel, après la révélation de plusieurs faits de violence et de harcèlement sexuel qui mettent en cause des cadres de l'éditeur de jeux vidéo.
Alors tout a commencé avec des témoignages de salariés sur Twitter, des accusations contre des responsables de différents studios à travers le monde. Et devant cette libération de la parole, en quelque sorte, le numéro 1 des jeux vidéo a décidé de prendre les choses au sérieux avec une série d'enquêtes, Clément Le Saffre.
Oui, des enquêtes internes lancées aujourd'hui. Il faut dire qu'Ubisoft n'avait pas le choix. Depuis quelques jours, une vague de témoignages afflue sur les réseaux sociaux pour dénoncer le sexisme encore trop présent dans le milieu très masculin du jeu vidéo. Et Ubisoft fait partie des entreprises citées. Des témoignages anonymes d'employés ou ex-employés du géant français qui emploie, rappelons-le, 18 000 personnes dans 30 pays. L'un d'entre eux décrit par exemple une soirée au cours de laquelle un directeur créatif d'Ubisoft, alors saoul et enragé, aurait étranglé une employée. Il ajoute que la direction était au courant mais n'a rien fait. Un autre directeur créatif est accusé, lui, d'avoir léché le visage d'une femme sans son consentement. Les allégations visent des cadres des studios de Toronto et Montréal, mais aussi au Brésil, en Bulgarie et aux États-Unis. Rien en France pour l'instant, mais un internaute qui relaie ces témoignages promet que le siège d'Ubisoft à Montreuil n'est pas épargné. Ubisoft se dit sincèrement désolé et regrette de ne pas avoir réussi à créer, je cite, un environnement sûr et inclusif pour ses équipes. Le groupe a fait appel à des consultants externes spécialisés dans ce genre d'enquête pour faire toute la lumière sur ces accusations. Il s'engage, en fonction des conclusions des enquêtes, à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées.
Clément Le Saffre. À 3 jours, 4 jours même de la fermeture définitive, le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim s'est mis à l'arrêt automatiquement aujourd'hui. Les équipes d'EDF cherchaient encore cet après-midi les causes de cet arrêt subit.
Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Et à suivre dans cette édition de 19h, les pubs pour les sodas et les chips interdites aux heures de grande écoute.
Et puis on se projette sur demain, demain en France. Vous pourrez bientôt louer votre parking de voiture à des cyclistes grâce à une appli que nous présentera Jean-Pierre Montanet.
19h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Lionel Gougelot, Nathalie Lévy.
L'actualité avec cette question, faut-il interdire les publicités pour les sodas, les chips, les céréales, particulièrement sucrées à la télé et sur Internet ?
La question se pose pour les émissions notamment de 19 à 22h, vous savez, au moment du film ou des émissions de télé-réalité. C'est ce que préconise en tout cas Santé publique France. Alors, question, cette mesure serait-elle efficace pour préserver la santé de nos enfants ? Sans doute, estime Alain Bazot, le président du FC Que Choisir.
C'est pas normal de les exposer aussi fortement à la promotion de produits qui sont déséquilibrés. Et donc le fait de cibler ces produits-là en disant on vous empêche pas de les vendre, mais vous n'êtes pas obligé non plus de matraquer à terme de publicité les enfants. Nous, on soutient cette mesure qu'on avait déjà demandé. On demande pas aux industriels de plus faire de la nourriture. C'est aux industriels de revoir leurs recettes, de rentrer dans une logique d'alimentation plus saine. Ils ont dans leur catalogue d'ailleurs des produits qui sont plus sains. Pourquoi est-ce que ce sont pas ceux-là qu'ils promeuvent, qui mettent leur argent publicitaire sur ces produits-là? C'est ça le sens d'une nouvelle consommation dans une nouvelle société plus responsable et plus vertueuse.
Alain Bazot, le président du FC Que Choisir avec Ève Roger.
C'est l'heure de demain en France dans cette édition. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Lionel.
Alors la pratique du vélo elle explose, hein, ça on l'a vu, mais les vols aussi. Alors comment on gare son vélo en ville en toute sécurité Jean-Pierre ?
Oui, alors 13, hein, Nathalie, c'est le chiffre du soir. Le nombre de vols de vélos chaque jour à Paris encore ne sont comptabilisés que ceux qui ont donné lieu à une plainte. Consciente que cette hantise du vol est un frein à sa vélomania, Anne Hidalgo a promis hier, lors du débat télé, de construire massivement des places de parking sécurisées. Des box fermées de 6 places attribuées contre un abonnement, installées dans les rues. Quelques-uns, très peu, ont été déployés avant le confinement. Le site de la mairie annonce l'installation d'une cinquantaine de box, soit 300 places courant 2020. Des vélostations près des gares dotées de 1000 places, accessibles grâce à un badge, vont aussi sortir de terre. Celle de la gare de Lyon est déjà ouverte. Dans le même genre, l'agglomération de La Rochelle, ville pionnière question bicyclette, a ses véloparcs qui offrent près de 300 places.
Alors ce qu'il y a d'intéressant également Jean-Pierre, c'est qu'il y a aussi des places disponibles dans des parkings publics ou privés même. Hein.
Oui, alors on le savait, les opérateurs réservent déjà des places pour les vélos contre un abonnement, 35 euros par an à Lyon, où 900 places sont disponibles dans 16 parcs, environ 10 euros par mois à Paris dans certains parkings. Sur ce marché, une start-up baptisée 12.5 va début juillet proposer une offre innovante aux cyclistes parisiens. Les deux fondateurs, trentenaires Diego et Paul, sont partis du constat que faute de voitures, de plus en plus de places sont vacantes dans les parkings souterrains des immeubles. Dans un premier temps, avec le feu vert des bailleurs, ils vont mettre à la location sur leur plateforme 5000 places sécurisées dans 500 lieux différents. Chaque place pourra accueillir 9 vélos. Le cycliste paiera environ 15 euros par mois et le propriétaire de la place, s'il est occupé à 100%, empochera entre 100 et 150 euros par mois. La start-up 12.5 installe pour chaque vélo un arceau de sécurité pour l'attacher et met à la disposition bip ou badge pour l'accès au parc. À terme, chaque propriétaire d'une place dans un immeuble privé pourra proposer sa place sur cette application.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. Le tapis rouge hein, pour les vélos à lundi, évidemment.
Deux mots de sport pour terminer, Nathalie. Le football, un investissement de 700 millions d'euros. 700 millions d'euros pour le rachat de l'OM, un projet porté par l'ancien président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal. Rachat qui serait mené par un groupe d'investisseurs du Moyen-Orient. Et puis cette fois, c'est gravé dans le marbre. La Fédération française de foot confirme la décision de Ligue 1 à 20 clubs la saison prochaine, entérinant ainsi la rétrogradation de Toulouse et de Amiens en Ligue 2. Et puis deux mots de tennis pour vous signaler que les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup, initialement prévues en novembre prochain, à Madrid, eh bien, sont annulés. Elles sont reportées à 2021, évidemment toujours en raison de l'épidémie. Report à novembre 2021 donc pour la Coupe Davis et avril de l'an prochain pour la Fed Cup chez les dames.
Ouais, il l'a dit, hein, le capitaine de l'équipe de France. J'avais un mauvais pressentiment, Julien Bento. Merci beaucoup Lionel Gougelot. 19h30, de retour à mes côtés dans ce studio. Anissa, une journée agitée demain samedi avec des orages.
Oui, et déjà 20 départements vigilance orange aux orages pour cette nuit. C'est une dégradation orageuse très marquée qui va du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne, qui va même gagner le centre. Ce soir, une forte activité électrique, de violentes rafales, de la grêle. Les images sont impressionnantes. Ce sont des balles de ping-pong hein, qui tombent littéralement sur certaines régions. Il faut savoir qu'à 18h, du côté de Nancy, nous avons eu 15 jours de pluie en seulement 3 heures. Alors pour demain, eh bien sur la moitié nord du pays, sur les pays de la Loire, la Bretagne, le Nord, les Ardennes, l'Alsace et la Lorraine, eh bien là, la journée commence avec encore des nuages et des averses. Ces averses vont se généraliser sur toute la moitié nord du pays et elles seront accompagnées de vents d'ouest qui pourra souffler jusqu'à 60 km/h. À l'est, en Alsace, Bourgogne, sur les Alpes, l'Auvergne, la Corse et même jusque sur les Pyrénées, eh bien le temps redevient orageux demain après-midi. Il n'y a finalement que sur le pourtour méditerranéen que vous aurez du beau temps. Les températures, 14 à 20 degrés. Demain matin, ça reste encore chaud. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 25 à 30 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 33 au bord de la Méditerranée. Et c'est plus frais sur le nord-nord-ouest avec seulement 18 à 22 en Bretagne et 20 à 24 sur les côtes de la Manche. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée dans un instant, Nathalie Lévy.
Et oui, à J-2 avant le second tour des municipales, quel enjeu pour les partis. Nous clôturons cette semaine avec les patrons des principaux états-majors. Ce soir, Nicolas Bay, député européen Rassemblement National, qui entre dans ce studio dans moins de 2 minutes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et on s'intéresse au deuxième tour des municipales. Comme toute cette semaine, vous recevez les principaux leaders des partis. Ce soir, votre invité Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National.
Bonsoir Nicolas Bay.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio à Europe 1. Bon, le Rassemblement National affiche des scores assez moyens pour le second tour dimanche. Sur le papier, le parti n'est en position de l'emporter nulle part ou presque dans 2 jours, soyons clairs.
Non, ce n'est pas exact. C'est vrai que ces élections municipales ont eu lieu dans un contexte très particulier. Au premier tour, on n'a pas fait le plein des voix parce qu'il était compliqué de mobiliser les Français quand le Premier ministre, la veille, leur explique qu'il faut rester chez eux. Et c'est vrai qu'on a la force d'avoir un électorat populaire qui a pu être une faiblesse conjoncturelle parce que c'est l'électorat populaire qui s'est le moins bien déplacé. Voilà, pour autant, on a obtenu de très bons résultats dans plusieurs villes qu'on peut gagner dimanche. C'est le cas de Perpignan, ça n'est pas une petite ville.
Vous voulez aller directement sur Perpignan, alors allons-y. Vous pouvez gagner Perpignan dimanche parce que, effectivement, c'est un enjeu important pour vous. Seule ville, d'ailleurs, ce serait la seule ville de plus de 100 000 habitants.
Oui, c'est une ville importante. Louis Alliot, je crois, crée une vraie dynamique de premier tour et une vraie dynamique de second tour, avec y compris des personnalités d'autres listes qui l'ont rejoint entre les deux tours. Finalement, il y a une vraie soif de renouveau à Perpignan qui l'incarne très bien face au maire. maire sortant qui a raclé les fonds de tiroir de tous les soutiens politiciens
pour essayer, Pujol, le maire,
pour essayer de sauver sa peau. Je crois que nous pouvons gagner à Perpignan, mais on peut gagner dans d'autres communes. Je pense à Moissac, je pense à Moria-les-Avignon,
restons sur Perpignan quand même deux secondes, parce que vous dites qu'il va l'emporter, c'est quand même compliqué. Il y a un Front républicain, vous l'avez dit, vous vous appelez ça du racolage, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je pense que ce front n'a pas grand-chose de républicain et qu'il s'est méchamment fissuré, méchamment craquelé. Je crois que ce mur, il n'est pas tellement debout.
Alors, ce mur, en tout cas, si on en reste là, ce mur pour faire barrage donc à Louis Alliot. Quand même, Louis Alliot, pardonnez-moi, vous avez vu le Rassemblement National sur une de ses affiches?
Écoutez, Louis Alliot est un des dirigeants du Rassemblement National, ça ne vous a pas échappé. Il est député du Rassemblement National, ça ne vous a pas échappé non plus. Donc, le fait qu'il fasse une liste de rassemblement, ça correspond aussi à la logique des élections
municipales.
Mais alors,
pourquoi le Rassemblement National n'est pas présent sur ses affiches?
Il apparaît en soutien à sa candidature, il a déposé en préfecture sa candidature en étant identifié comme du Rassemblement National, mais évidemment, il a un projet pour Perpignan. Et ce projet pour Perpignan, ce n'est pas un projet d'un parti politique ou d'une démarche partisane, c'est une démarche au service d'une ville et de l'intérêt général d'une commune. C'est l'enjeu de ces élections municipales, au-delà d'ailleurs du seul cas de Perpignan. Il faut aller voter le 28 parce que certains maires ont un peu profité de la crise sanitaire pour faire oublier leur mauvais bilan, distribuer les masques pendant deux mois. Mais maintenant, ça va engager pour les six prochaines années le vote de dimanche. Et donc, il faut voter sur le vrai bilan des maires. Les gaspillages, l'insécurité, le clientélisme, les excès de la fiscalité, c'est là-dessus qu'ils doivent être jugés et éventuellement sanctionnés dans les urnes.
Sauf que ça reste compliqué. Il y a des victoires, c'est vrai. Au premier tour, d'ailleurs, il y a des victoires, mais c'est des petites villes. Dimanche, ça ne suffira pas, Nicolas Bay, hein, pour que Marine Le Pen puisse parler de victoire au niveau national.
Si, écoutez, si nous gagnons plusieurs villes supplémentaires, je vous rappelle quand même que nous avons conservé la quasi-totalité dès le premier tour, avec des résultats
souvent remarquables. Mais on parle de quoi ? On parle de Vauvert, de Moissan, de Hénin-Beaumont, qui est le fief de Marine Le Pen. C'est pas emblématique.
La plupart des communes gagnées en 2014 ont été conservées dès le premier tour. Nous pouvons en gagner quelques-unes supplémentaires au second tour. Nous aurons beaucoup d'élus municipaux, y compris d'ailleurs dans des communes où nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Donc, vous savez, l'implantation locale, ça ne s'improvise pas. Le parti du président de la République est en train de l'éprouver assez durement. Ils ont une quasi-absence de ces élections municipales. Et quant à des partis comme les Républicains...
C'est un parti qui a 3 ans, hein,
comme le parti du président de la République. Bon, ils n'arrivent pas du tout à s'implanter localement. Nous, on poursuit ce travail d'implantation locale qui est de plus en plus une réalité de terrain.
Mais je comprends ce que vous dites, mais quand même, Nicolas Bay, regardez, on est un an à peine après les européennes. On se souvient de votre résultat, arrivé en tête avec plus de 23% des voix. Comment vous expliquez, là, on est seulement 7 villes où vos maires ont été réélus au premier tour, le 15 mars.
Parce que vous savez très bien, on voit d'ailleurs des partis politiques qui font 7 ou 8% au niveau national, ou 5%, comme le Parti Socialiste ou les Républicains, qui parviennent dans beaucoup de villes à conserver leur avantage. Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, le vote aux élections municipales se fait en partie hors des partis politiques et que les personnalités locales, par inertie souvent, bénéficient d'un certain soutien de la population. Ça ne durera pas éternellement, mais ça conduit à ce que le travail d'implantation locale soit un travail très long, assez fastidieux. Nous le faisons depuis des années, on continuera à le faire, mais ça ne préjuge pas, comme vous l'avez dit très justement, des résultats des autres élections. Marine Le Pen, on l'a vu ces derniers jours, est en tête des intentions de vote pour la présidentielle, même si en effet...
Vous enjambez donc les municipales.
Même si c'est vrai, notre implantation locale
finalement,
municipale
vous faites
est
pareil,
encore imparfaite.
Pardonnez-moi, mais vous faites pareil que le président d'exercice, Emmanuel Macron. Il enjambe lui aussi, de toute évidence, ses municipales. On est déjà à l'heure du remaniement, ou presque. Marine Le Pen, c'est pareil.
Non, mais ça
n'a rien
cette
à voir, logique.
Parce que nous sommes présents dans beaucoup de villes. Nous aurons des élus majoritaires, peut-être, dans les villes qu'on gagnera. Et
mais
en
des
tout cas,
de
des élus d'opposition.
Habitants.
Alors que le parti du président de la République est tellement faible que dans beaucoup de communes, il fait des alliances avec les Républicains. Ce qui montre d'ailleurs que les Républicains sont réduits à être un peu les supplétifs de M. Macron au niveau national et La République En Marche, le supplétif des Républicains au niveau local.
Restons sur les municipales et n'allons pas encore tout de suite sur la présidentielle. On a encore un petit peu de temps, mais quand même, regardez, le Rassemblement, une chute, enfin, voilà, je vais y arriver, le Rassemblement National, avec une chute vertigineuse quand même du nombre des conseillers. On est présent au second tour que dans 103 communes. Comment vous l'expliquez ?
D'abord, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que nous avions moins de listes que la dernière fois, c'est vrai, un petit peu moins. On a préféré se focaliser sur un certain nombre de communes, notamment celles qui étaient gagnables. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est comme beaucoup de maires, y compris les nôtres d'ailleurs, ont été réélus dès le premier tour, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas de second tour. Voilà, donc le fait qu'on ait moins de listes au second tour ne nous empêche pas d'avoir... Nous avons eu, dans les villes où l'élection a été acquise au premier tour, nous avons eu déjà plus de 500 élus municipaux du Rassemblement National dès le premier tour.
D'accord, mais c'est quand même insolite pour un parti qui n'arrête pas de répéter depuis le début de cette campagne campagne, même si elle a été évidemment interrompue par la crise, qui dit qu'il veut inonder le pays d'élus pour avoir, je cite, la meilleure opposition possible.
Oui, c'est... Mais nous, nous concourons à tous les étages de la vie politique. Et la présence aux élections municipales est une étape. C'est une étape importante, mais c'est pas une étape, c'est pas forcément l'étape décisive. On voit bien qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des partis qui sont devenus des partis d'élus locaux, mais qui ont quasiment plus aucun poids aux élections nationales, notamment le Parti socialiste et les Républicains. Donc on poursuit ce travail d'implantation locale. Il y aura ensuite des élections régionales et départementales. Où nous, à nouveau, nous ferons ce travail-là, nous l'amplifierons, je pense, par rapport à la fois précédente. Mais notre objectif, soyons clairs, c'est d'arracher le pays au déclin, de changer totalement les orientations politiques. On a montré aux élections municipales, pendant 6 ans, dans les villes qu'on a gagnées en 2014, notre capacité à gérer, à bien gérer, à mieux gérer que nos adversaires. Mais ce que nous avons fait au niveau local, nous nous proposons de le faire ensuite au niveau national. Le Rassemblement national n'a pas comme objectif unique l'alternative municipale, même si c'est une étape importante qui peut servir concrètement dans l'action quotidienne de proximité les intérêts de nos compatriotes.
Finalement, c'est un peu ce qu'on dit encore au parti La République En Marche. On a un peu le même son de cloche, là encore. On les retrouve de la même manière.
La République En Marche est absente de ces élections municipales. Je pense que, Nathalie Lévy, vous faites la différence. Ils sont absents et ils servent de force supplétive à d'autres. Nous ne sommes absolument pas dans cette configuration.
Mais
nous sommes présents, nous avons déjà beaucoup d'élus municipaux.
Mais vous lorgnez sur des villes, Nicolas Bay, vous lorgnez sur
des villes. Et vous lorgnez supplémentaires.
Et vous lorgnez sur des villes, Calais, Maubeuge, Denain, par exemple. Là, le candidat, votre candidat a déjà perdu il y a 3 mois.
Mais d'abord, on n'a pas dit que ces villes étaient gagnables.
C'était quasiment acquis.
Mais les villes que vous citez, nous y avons désormais des élus municipaux d'opposition qui prépareront les victoires de demain. C'est le propre de l'action politique locale. Vous savez, on ne peut pas faire des basculements politiques massifs, instantanés comme ça, pour des élections municipales. Ça se fait par étapes. Et 2014 a été une étape importante dans la conquête des villes. 2020 est une étape importante parce que nous conservons ces villes et nous y faisons une démonstration de bonne gestion.
Merci beaucoup Nicolas Bay d'être venu se projeter sur dimanche et ce résultat des municipales à suivre et que vous viendrez ici commenter dans l'édition spéciale sur Europe 1 avec Wendy Bouchard et Sébastien Kreis. Merci beaucoup. Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
On reste ensemble, bien sûr, et dans 3 minutes, à partir de 19h30, on passe en mode week-end. Les bonnes idées, la rédaction, les balades, la musique, la culture. Restez avec nous, profitez-en, ça se passe au 39-21 pour nous contacter et hashtag Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Lionel Gougelot, votre rappel des titres.
Le retour de la quarantaine dans certains états, fermeture des bars en Floride et au Texas après une augmentation des cas de Covid, de nouvelles restrictions d'urgence appliquées aujourd'hui face au regain de la pandémie aux États-Unis. Donald Trump décide d'annuler au dernier moment un déplacement dans le New Jersey. L'attaque au couteau cet après-midi dans les rues de Glasgow ne serait pas de nature terroriste. L'auteur de l'agression a été tué par la police. Une attaque qui a fait 6 blessés, dont un policier, aux abords d'un hôtel accueillant des réfugiés. Consciente de l'émoi suscité, ce sont les mots de la ministre de la Justice. Nicole Belloubet demande un rapport sur les investigations du parquet national financier après la révélation d'investigations sur les factures téléphoniques, notamment de l'avocat de Nicolas Sarkozy. Elle appréciera par la suite s'il y a lieu d'organiser une inspection. Un policier mis en cause après avoir pratiqué une clé d'étranglement à l'une de ses collègues. 2 enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes après la plainte de la policière contre son collègue qui aurait voulu s'exercer à cette technique d'interpellation. Et puis l'Olympique de Marseille, racheté par un groupe d'investisseurs originaires du Moyen-Orient. Le projet, qui semble se concrétiser, bénéficierait d'une manne de 700 millions d'euros avec à sa tête Mourad Boudjelal, l'ancien président du rugby club de Toulon.
Merci beaucoup Lionel Gougelot. L'info revient à 20h sur Europe 1. Anissa, beaucoup d'orages, là, dès cette nuit d'ailleurs.
Oui, effectivement, nous avons actuellement 20 départements placés en vigilance orange aux orages. Ça va du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne, jusqu'au massif central. Il va falloir être très vigilant si vous nous écoutez dans ce secteur parce qu'en fait, d'où viennent ces orages? Nous avons une nouvelle goutte froide. Vous savez qu'on a eu début juin où il faisait pas très chaud. Cette goutte froide, elle arrive par l'Atlantique. Il y a un conflit de masse d'air. Et du coup, grosse activité électrique. Cette nuit, on aura de la grêle, des rafales de vent et parfois beaucoup de pluie sur certaines régions. Donc soyez extrêmement prudents. Demain, ça se calme côté orage, mais les averses sont toujours présentes. C'est pas un week-end très ensoleillé que nous aurons, mais les températures, elles restent toujours très agréable avec 25 à 30 degrés en moyenne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec vous Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Et comme chaque vendredi, on ne perd pas les bonnes habitudes, votre grand journal du soir passe en mode week-end avec des idées de balades, de sorties culturelles, des recettes, on va se régaler. Et c'est avec bien sûr toute la rédaction d'Europe 1. Et puis vos idées, vos témoignages, venez nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et on commence avec la région Est. Bonsoir Thuram Bâché, on est avec vous en Alsace. Alors Arthur, vous nous faites découvrir, pour ceux qui ont déjà eu la chance de grimper peut-être là-haut, le château du Haut-Konzimburg. C'est le cœur de l'Alsace, la route des vins. Magnifique paysage, hein, des petits villages lovés dans les vallons, entourés de vignobles, etc. Comme dans les livres un peu.
Écoutez, c'est très simple. Prenez un enfant avec un minimum d'imagination, plantez-le n'importe où dans le château.
Et bam, 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 bam. Le chevalier et le cheval et l'épée. Et on peut se battre.
On peut se battre, comme le montre avec vigueur la guide du château Céline Kugler, devant une impressionnante rangée de hallebardes.
Face à un chevalier sur le destrier, je l'agrippe à l'armure, je le fais tomber du cheval. Si je vois que ça sourit encore sous l'armure, je prends la pointe. Je porte l'estocade. Et sinon, vous avez une arme redoutable, l'arme du lâche, du couard, du diable. Mis à part les arquebuses, ce sont les arbalètes.
La maman du petit garçon qui dit bam bam bam, c'est Anne, originaire de région parisienne.
Mais le côté pédagogique est très intéressant pour les enfants. Ils ont l'impression de se l'approprier. Ils voient les conditions dans lesquelles ils vivaient, ils se déplaçaient, les chemins de ronde. Ils peuvent quand même s'imaginer à la place d'un soldat, d'un seigneur. Ça, c'est quand même génial, ça.
Alors Arthur, à quoi il ressemble ce château ?
Eh bien, fermez les yeux, imaginez la caricature du château fort. Voilà, vous l'avez. Je vous précise juste la couleur. Il est dans cette pierre caractéristique du coin, le grès rose des Vosges, comme la cathédrale de Strasbourg. Alors, pourquoi je vous dis caricature ? Parce que ce véritable château médiéval, 1147, dit-on, était en ruine à la fin du 19e, au moment où l'empereur allemand Guillaume II décide de le restaurer pour faire la pub du Reich qui vient d'annexer l'Alsace. Et là, eh ben c'est un peu Disneyland avant l'heure, la prudence légendaire des actuels architectes des bâtiments de France, vous oubliez. Voilà un joli petit moulin à vent, alors que personne n'en a jamais vu un dans la région. Plein de vitraux, magnifiques mais complètement anachroniques. Un donjon rehaussé pour faire plus beau, ou le délirant grand salon de l'empereur.
En fait, ces pièces-là, elles ne correspondent mais absolument plus du tout au Moyen-Âge. Là, c'est un peu le Moyen-Âge rêvé, comme on l'imaginait à l'époque de Guillaume II.
Guillaume II a mis des moyens impressionnants pour cette restauration qui n'a duré que 8 ans. Efficacité allemande, on va dire.
Dès 1902, dans cette vieille ruine du Moyen-Âge, il y a de l'électricité. Là, vous êtes à 750 mètres d'altitude, il y a de l'électricité. Dans la ruine, vous aviez des rails de chemin de fer avec cette locomotive ici pour transporter le matériel. C'est extrêmement moderne.
La grande illusion avec Jean Gabin.
Si vous voulez un avant-goût haut de gamme pour refaire une idée du château, Jean Renoir, La Grande Illusion, 1937, des scènes mythiques du cinéma français tournées ici au Königsbourg, du noir et blanc avant la visite en vrai, le rose du château, les nuances de vert dans la forêt et les vignes, et puis après la visite, les reflets dorés évidemment d'un Gewürz ou d'un Riesling.
Évidemment, ça va avec. Voilà ce château du Haut-Königsbourg au cœur du tourisme en Alsace avec vous, Arthur Mbaché. Et puis, il y a la musique. Et la musique, c'est avec vous, Angèle. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Angèle Châtelier.
Merci.
Alors, on l'attendait, le voilà, ça y est, le nouvel album de Benjamin Biolay.
Comment est ta peine ? La mienne est comme ça.
Et quel album, Nathalie, l'attente valait le coup. C'est le 9e de Benjamin Biolay. Il s'appelle Grand Prix. 13 titres qu'il voulait rock. Alors, on retrouve un Biolay qui se mue en crooner, contemplant l'amour et s'interrogeant sur son sens, surtout bah, qu'il a du mal à trouver. On connaît le Benjamin Biolay, poète, auteur pour lui comme pour d'autres, mais ses textes aussi, soignés soient-ils, il met du temps à en accoucher. C'est ce qu'il confiait ce matin sur Europe 1 au micro de Jean-Philippe Ballas.
Je commence les mélodies d'abord, moi je fais mes chansons dans un espèce de faux anglais qui ressemble à rien depuis toujours, et après je dois écrire des textes, mais c'est toujours un casse-tête épouvantable quand même. C'est la langue française, je l'aime beaucoup, alors j'ai toujours envie de la valoriser un peu, mais il faut qu'elle sonne quand même, donc c'est... quelle épreuve.
Comme je t'aimais, le fond
Un album sur lequel on retrouve aussi la chanteuse Keren Ann sur un titre « Souviens-toi l'été dernier ».
Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien vu.
Et Nathalie, ce nouvel album ne s'appelle pas Grand Prix par hasard. Référence au Grand Prix de Formule 1, Violet est un amoureux des voitures et n'a de cesse d'évoquer cet univers dans ses nouvelles chansons, même si c'est parfois subtil.
La roue tourne et nous détourne parfois du bien. La roue tourne et clivage, plus on sait qu'on ne sait rien.
Réussite. Hein.
Ah,
la critique est quasi unanime. Ouais. Beaucoup disent son plus bel album depuis 2009.
Facile, oui.
C'était la superbe en 2009, ça nous ramène loin. Et les guitares, donc, qui lui vont bien, Benjamin Biolay. Alors, la voiture, Angèle, pas très compatible avec le message que cherche à faire passer Julien Doré. Et oui, lui aussi, c'est le retour cette semaine avec un nouveau titre.
Oui, qui s'appelle La Fièvre, un nouveau titre qui interroge l'état du monde. C'est vrai que ça va pas très bien avec les voitures, le réchauffement climatique, les enjeux pour la planète. Et dans le clip, un homme vit son quotidien, mais alors sa tête, c'est un globe terrestre.
Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre.
Un titre qui annonce, on imagine, l'arrivée d'un nouvel album pour Julien Doré. Et enfin, peut-être que vous qui nous écoutez, vous y étiez. En 2018, Dépêche Mode faisait une immense tournée partout dans le monde, une centaine de dates, 3 millions de spectateurs en tout. Et bien aujourd'hui sort un documentaire sur cette tournée en DVD, elle s'appelle Spirits in the Forest.
Merci beaucoup Angèle. Et ce retour de Julien Doré fait du bien aussi.
Hein. Oui,
il
aussi,
l'a soigné hein, ce
oui.
retour. Hein. Merci beaucoup notre spécialiste musique d'Europe 1 pour ses recos. On se retrouve nous dans un instant, évidemment avec la suite du programme du week-end. On va se régaler, c'est promis.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h en mode week-end dans ce vendredi. De la musique, des idées sorties, des recettes. Venez nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1, on lit vos messages.
Alors, on poursuit avant le week-end avec ces bonnes idées culture. Et Théophile Cossa nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Nathalie.
On est au Palais de la Découverte à Paris avec vous. Réouverture des portes depuis mardi. Mmh. Et le palais s'est adapté évidemment aux exigences sanitaires. Cette exposition phare du moment, c'est de l'amour.
Eh oui. Le grand retour de l'amour au Palais de la Découverte près des Champs-Élysées, bien sûr, à Paris. Pour le plus grand plaisir du public, à l'entrée justement tout à l'heure dans le hall absolument somptueux construit pour l'exposition universelle de 1900, je croisais Devrim, ravi de pouvoir redécouvrir ce lieu magique avec une paix royale.
Ça fait 3 mois que je ne sortais pas. C'est un retour à la vie culturelle. Même si, avec ma compagne, on a pu visiter virtuellement des musées, ce n'est pas la même chose, évidemment, de le faire physiquement. Heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de touristes étrangers pour le moment. Donc, on va en profiter pleinement pour visiter tranquillement cette expo Amour avec ma compagne. Ça va nous donner des idées, j'espère.
On vous le souhaite, Devrim. Alors, je ne sais pas si cela a donné des idées, mais en tout cas, les amoureux ont pu profiter aujourd'hui de cette expo vraiment tranquille, un palais de la découverte rien que pour eux, ou presque. Bah oui, parce que le nombre de visiteurs est limité à 200 personnes désormais, contre 2000 en temps normal. Mais à vrai dire, tout à l'heure, les visiteurs étaient rares et ne se croisaient pas, ou presque, parce que évidemment l'organisation a été complètement repensée pour respecter les conditions de masse sanitaire. Masque obligatoire, parcours balisé avec un sens unique de circulation. Et puis des petits stylets distribués à l'entrée pour éviter de poser ses doigts sur les boutons interactifs qui permettent, vous savez, de lancer les différentes animations de l'exposition. Voilà, le tout en veillant, bien sûr, à ne surtout pas dénaturer l'expérience.
Mais alors cette expérience, justement, racontez-nous tout. Qu'apprend-on dans cette expo ?
Eh bien, on y vient pour se plonger dans les mystères de l'amour et peut-être obtenir des réponses aux questions que l'on se pose tous. Hein. C'est quoi l'amour ? Qu'est-ce que signifie tomber amoureux ? Comprendre aussi comment réagit notre corps et notre cerveau aux sentiments amoureux. C'est le pari, en fait, du Palais de la Découverte, hein, qui traite, comme à son habitude, le sujet d'un point de vue scientifique. L'exposition commence par nous restituer les multiples facettes de l'amour, le désir, bien sûr, la passion charnelle, mais aussi l'amour que l'on ressent dès l'enfance, l'amour pour ses parents, l'amitié, le lien social, avant d'étudier plus en profondeur ce qui se passe dans notre corps quand on est amoureux, par exemple, que notre cœur bat si fort. Qu'est-ce qui nous arrive ? On observe aussi l'évolution de nos rapports amoureux au gré des nouvelles technologies, avec l'essor des rencontres en ligne. Et puis on parle enfin sexualité, en restant relativement sage, rassurez-vous. Figurez-vous que j'ai appris plein d'expressions, personnellement. Chatouiller le nénuphar, avoir la praline en folie, défriser la chicorée. Bref, on apprend et on s'amuse entre adultes, parce que oui, l'expo s'adresse à un public de 15 ans et plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que De l'amour est prolongé jusqu'au 27 septembre 2020. Donc vous avez le temps d'y aller. N'oubliez pas de réserver sur Internet. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour chaque billet acheté, vous avez un billet offert qui est utilisable à la fois au Palais de la Découverte, mais aussi à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Voilà, la Cité des Sciences et de l'Industrie qui rouvre ses portes au public demain, justement.
Exactement. Alors, on va poursuivre, justement, parce que nous sommes en ligne avec Bruno Macquart. Bonsoir.
Bonsoir, Nathalie Lévy.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes présidente d'Univers Sciences qui regroupe donc le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, ça tombe bien, hein, le public va être accueilli chez vous alors que les vacances scolaires se profilent, avec une programmation estivale très très riche. Vous pouvez nous en livrer quelques grandes lignes ?
Avec plaisir. Écoutez, nous sommes fin prêts à accueillir nos visiteurs dès demain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On a le bonheur depuis mardi d'avoir nos visiteurs au Palais de la Découverte. Et franchement, on est très, très, très heureux de les retrouver. Alors, demain, à la Cité des Sciences et d'Industrie, ben, l'essentiel sera là. L'essentiel, c'est l'exposition Espion, l'exposition Robot, le Planétarium, des animations.
Prolongé d'ailleurs hein, jusqu'à l'été de 2021, je crois.
Oui, Espion, tout à fait. On a décidé d'offrir plus de temps pour que les gens puissent venir la découvrir dans des conditions très particulières parce qu'il y aura moins de monde. Et puis aussi, la Cité des Enfants. On offre la Cité des Enfants dans des conditions de visite assez exceptionnelles puisque compte tenu des mesures sanitaires que nous appliquons, tous les musées, eh bien, nous admettons moins de monde. Et donc, ce sont vraiment des conditions de visite.
Quelles sont-elles ces conditions de visite extrêmement adaptées avec, j'imagine, pour acheter son billet, on est plutôt en ligne, on a le port du masque. Expliquez-nous un petit peu, parce qu'il faut que ça reste évidemment un moment de découverte, un moment fort agréable.
Tout à fait. Alors, ça sera exactement comme au Palais de la Découverte. Évidemment, on va demander à nos visiteurs de porter un masque. Il faudra qu'ils aient réservé en ligne. Enfin, si jamais ils arrivent sans billet, il y a des caisses à l'extérieur. Et puis après ça, nos agents pourront les aider à le faire. On aura une signalétique. On va demander aux gens de respecter des distances. Et puis surtout, on va les guider dans des parcours pour pas qu'ils soient perdus et qu'ils se retrouvent. Les gens peuvent venir tout seuls, mais aussi ils peuvent venir en tribu, c'est-à-dire en groupe de 5. Des groupes de 5 qui vont gérer eux-mêmes la distance entre leurs membres. Parce que notre principe, c'est responsable ensemble. Nous sommes responsables d'offrir un établissement au nettoyage renforcé, mis aux normes sanitaires. Mais il faut aussi que les gens soient responsables pour que la visite soit un plaisir pour tout le monde.
Voilà, exactement. Pour les petits et pour les grands, parce que beaucoup d'expositions sont adressées aussi à un public de tout âge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Macquart, sur Europe 1. On a le programme pour les expos. On va parler recettes dans un petit instant. Marion Sauveur, la reine de la gastronomie, nous rejoint.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Comme chaque vendredi, on se prépare pour le week-end. Alors, on a eu des idées sorties, de la musique. On va passer à table dans un instant. Et puis, toutes vos réactions, bien sûr, au 39-21, Nathalie.
Mais d'abord, on descend un petit peu au sud. Et puis, on tourne à l'ouest. On rejoint Christian. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Nathalie. Merci de me prendre en tête. Merci à tous les auditeurs.
Alors, vous êtes à Biscarrosse, je précise, et ça fait envie.
Voilà, vous m'avez compris. Alors, je donnerai une petite consigne, surtout, découvrez, redécouvrez la forêt. Bon, sur les plages, ça commence, je peux vous dire, la semaine commence à y avoir pas mal de monde. Des attitudes pas toujours, on ne va pas épiloguer, mais redécouvrons la forêt. La forêt est magnifique. Il y a eu un printemps, si vous voulez, bon, qui a été un peu mouillé, mais enfin, qui a permis une végétation magnifique. Et je dirais à tout le monde, redécouvrez la forêt. Il y a vraiment sur Cazaux et tout ça, allez-y, promenez-vous, profitez-en. Au niveau, on peut se pousser les uns les autres, il n'y a pas de problème, il y a de la place.
Il y a des lacs,
et redécouvrez la forêt, respirez à plein poumon et redécouvrez cette forêt. La plage un peu plus tard, on a le temps.
Ouais. Voilà. Il y a quand même une très très belle plage aussi, ça fait envie, mais on fait un détour par la forêt parce qu'en plus il y a des lacs, effectivement.
Oui.
Donc il faut aller dans ces espaces verts et naturels des Landes. C'est votre recommandation à vous, Christian, depuis Biscarrosse, mais peut-être que vous êtes un peu trop allé à la plage, en fait, c'est ça le truc. Merci.
Si vous voulez, on est trop gâtés.
Voilà, on a les deux. Merci à vous, en tout cas, merci de nous avoir appelés ce soir sur Europe 1, Christian, de Biscarrosse. Et on a Marion, évidemment, ce soir. Marion est avec avec nous Marion Sauveur.
Bonsoir.
Hello Mario, bienvenue dans ce studio. Alors Marion, dimanche c'est le second tour des municipales, bien entendu. D'ordinaire dans les QG de campagne, les équipes se rassemblent autour d'un buffet. Exit cette année le buffet, raison sanitaire oblige. Vous, chez vous, ce week-end ou cet été, vous allez certainement quand même en préparer. Alors Marion, dites-nous tous les astuces pour ne pas louper son buffet.
Et oui, la première chose, c'est la quantité, parce que si vos invités meurent de faim au milieu de la soirée, ben, ça risque d'être un petit peu compliqué. On dit qu'il faut en moyenne 18 pièces par personne, moitié salée, moitié sucrée. Et pour vous en sortir, ne pas avoir des dizaines et des dizaines de petits fours à confectionner, l'astuce, c'est de cuisiner des plats que vous partagez, comme des croque-monsieur, par exemple. Et c'est tout simple à faire, vous allez voir. On s'occupe d'abord de la béchamel. Alors, il faut faire fondre le beurre sur un feu doux. Quand le beurre est fondu, vous ajoutez la farine. Et quand c'est homogène, le lait, petit à petit, sans vous arrêter de fouetter, ça c'est très important, il faut que ça épaississe. Et puis on sale un peu de noix de muscade râpée. On prend ensuite deux tranches de pain. Sur chacune, on tartine la béchamel par-dessus du comté râpé. Et sur l'une des deux, on ajoute le jambon blanc. Un bon jambon, hein. Attention.
Bah oui, évidemment.
Vous refermez votre croque-monsieur avec l'autre tranche de pain et pour les gourmands par-dessus, on rajoute la béchamel, on met au four.
Bien sûr.
12 minutes et quand vos croque-monsieur sont prêts, on les découpe en quatre et voilà, comme ça,
mais
on peut les mettre simplement sur le buffet.
Avec le petit pic qui va bien et tout, ça le fait. Hein.
Voilà, et on peut même varier les recettes avec des tomates séchées mixées à la place de la béchamel, du jambon cru, du parmesan. On peut s'amuser et pour le dessert, on peut faire à peu près la même chose avec des gaufres, par exemple, qu'on découpe en quatre une fois qu'elles sont cuites et on met du miel, des confitures, des pâtes à tartiner. Il n'y a plus qu'à se servir.
Ouais, il n'y a plus qu'à. Ça a l'air si simple avec Marion Sauveur. C'est vrai que la béchamel dans le croque-monsieur, ça fait quand même la différence, j'avoue. Alors du coup, des croque-monsieur, des gaufres, les autres plats que l'on peut mettre à coup sûr pour avoir un vrai buffet garni, gourmand.
Et pas trop rassasiant non plus, puisqu'il faut un certain équilibre. Il en faut pour tous les goûts, pour que les plats soient faciles à picorer et qu'on puisse les identifier. Il faut que vous mettiez des petites étiquettes, par exemple. Ça, c'est une astuce pour que tout le monde se rende compte de ce qu'il y a sur la table. Pensez par exemple aux salades complètes avec le quinoa, les pâtes, on ajoute des tomates, des poivrons pour la couleur, un peu de fromage, ça donne du goût. Et puis pour être un peu original, vous pouvez réaliser des beignets d'herbes fraîches. Si vous avez du basilic, de l'estragon, du thym, de la coriandre dans votre jardin, vous les émincez, vous les mélangez tout ensemble et à côté vous faites une pâte à beignets très légère en mélangeant seulement un jaune d'œuf avec de l'eau glacée et vous mettez de la farine, il faut qu'il reste des grumeaux et ça permettra à votre beignet d'être croustillant. On les place avec cette pâte à tempura par petites poignées. Vous les faites frire et dans une huile bien chaude. Et il n'y a plus qu'à déguster ensuite comme ça. Ça se picore, c'est génial.
Ah ouais, et puis c'est chic en plus, je trouve, le beignet d'herbes fraîches.
Ah oui,
c'est
j'adore.
Ah ouais, non, mais c'est atypique. Il y a des plats, évidemment, qu'on privilégie l'été, cet été.
Oui, cet été, parce qu'il fait chaud. Donc des plats rafraîchissants, comme les gazpacho, comme ce que vous avez sous les gouttes.
Alors
c'est l'idéal, c'est facile à faire un gazpacho. Si vous pouvez les stocker au frais jusqu'au dernier moment. Alors, il suffit de mixer vos tomates, vos concombres, vos poivrons avec un oignon. Vous mélangez avec de la mie de pain si vous avez besoin que ce soit plus épais. Et avec de l'huile d'olive, du vinaigre, un peu de gingembre comme ici ou du piment d'Espelette, pourquoi pas. Bah oui, il faut que ça ait du goût. Hein. Et des feuilles de basilic. Et vous laissez le tout bien au frais. Il faut que ce soit au frais, surtout. Et puis, on peut mixer, pour changer du gazpacho à la tomate, au concombre et au poivron, on peut mixer du melon pour faire une soupe de melon fraîche et on l'accompagne pourquoi pas de chips de jambon. Vous savez que vous faites cuire au four quelques minutes et c'est un accord parfait.
On met le jambon, lequel?
Le jambon cru
au four
comme ça, entre deux plaques si vous voulez que ça ressemble pas à une chips déformée, sinon ça se déforme un petit peu, mais c'est génial.
Mal, ça.
Ça cuit très facilement. Et puis pour rafraîchir vos invités, vous pouvez penser aux eaux aromatisées. Alors je vous en ai fait une.
C'est ça, on va goûter.
Voilà, pêche verveine, donc avec des fruits frais, des herbes aromatiques. Vous laissez infuser quelques heures les fruits, les herbes ensemble. Vous pouvez uniquement mettre des herbes toutes seules. Alors,
c'est subtil.
Voilà, c'est subtil parce que ça a infusé seulement deux heures au frais. Mais si vous laissez toute une nuit, ça aura beaucoup plus de goût. Et ça vous donne une boisson très peu sucrée et avec un peu de goût quand même.
Mais exactement. Et moi, j'ai un petit faible pour le gazpacho quand même. Ah. C'est vrai que c'est son heure l'été.
Bah, et forcément. Oui, forcément. Et c'est la saison
sucré,
de la tomate.
Et sucré ou salé, toujours vitaminé. Donc allons-y. Merci beaucoup, Marion Sauveur, pour ces
avec
bonnes
plaisir.
Idées.
C'était délicieux.
Pour assurer nos buffets cet été. Merci beaucoup. On vous retrouve demain avec Laurent Mariotte.
Oui, à la table des bons vivants.
Oh là là, bien sûr. Et l'heure ?
11h, midi 30.
On sera au rendez-vous. Merci beaucoup Marion Sauveur. Voilà, dans un petit instant, on passe à la musique avec Émilie Mazoyer. Ce soir, le concert acoustique de Vanessa Paradis. Enregistré en 2010, c'était à l'Opéra Royal au château de Versailles. Rien que ça. Émilie Mazoyer dans quelques secondes. D'abord l'info qui revient évidemment. Et puis lundi, nous serons là, 18h-20h, pour votre grand journal du soir en direct. Avec évidemment l'assurance d'écouter ensemble, n'est-ce pas Anissa,
le monde changé. Allez, bon week-end à tous. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.